I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein.
Mais calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes.
Intactes? Mais merde, où sont-ils?
Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils?
Bienvenue dans ce 11e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À côté de moi, mes deux compères, Guillaume et Aurélien. Comment ça va les mecs?
Ça va très bien.
Et comme invité aujourd'hui, on reçoit deux personnes, à commencer par Franck. Salut.
Salut.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Eh bien, moi, c'est Franck Galliègue, 35 ans, grand collectionneur de véhicules de cinéma, entre autres, et d'objets de cinéma, un peu moins connus, mais il y en a quand même. On est à la tête d'une collection de 35 voitures avec mes associés aujourd'hui, qui va de Fast and Furious à Jurassic Park, en passant par Retour à le futur.
Justement, on en parlera tout à l'heure.
Tout à fait.
À côté de lui, un immense fan du film dont on va parler aujourd'hui. Lorsque j'ai annoncé la création de ce podcast, il m'a dit « Le jour où t'en parles, je suis ton homme ». Nous recevons Julien Josselin. Comment
oui,
tu vas ?
Bonjour, je suis trop content d'être là.
Alors pareil, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Bien sûr, je suis comédien, scénariste principalement, je suis né sur l'internet pas mal, je continue de faire des trucs aussi sur internet et séries, cinéma, one day maybe.
Cool. Alors la semaine dernière, c'est un autre grand fan qui a choisi le film du jour, d'ailleurs je pense qu'il n'y a que des fans ici, c'est Guillaume.
Je crois bien, oui.
Tu t'étais baladé sur l'outil Cinématcher que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinema et dessus tu avais cliqué sur « À la maison, bidonné, transporté, Amérique du Nord et années 80 ». Tes indices étaient « Tas de fumier ». Balle et oh là là.
Oh là là, et qu'est-ce que c'était alors?
Bah écoute, beaucoup ont deviné sur les réseaux. Il s'agit donc du cultissime Retour vers le futur, film sorti en 1985, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. L'histoire d'un scientifique qui crée une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean, machine qui, suite à un concours de circonstances malheureux, envoie son jeune ami Marty McFly 30 ans en arrière, à savoir en 1955. Ce film fait aujourd'hui partie des figures de proue de ce qu'on appelle la pop culture, terme qui m'énerve pour absolument aucune raison, et qui a rendu culte à peu près tout ce qu'on trouve dans le film, de la DeLorean à la musique de Alan Silvestri, en passant par le hoverboard ou les Nike autolassantes. Rarement une franchise n'a comporté autant d'objets qui sont devenus par la suite des produits dérivés. A noter que ce film a reçu un Oscar en 1986, celui du meilleur montage sonore, et qu'il a tellement cartonné à sa sortie qu'une de ses répliques cultes fut citée par le président des États-Unis, Ronald Reagan, durant un discours.
As they said in the film, Back to the Future, where we're going, we don't need roads.
Je tiens à préciser que dans ce podcast, nous allons parler des trois films qui composent cette franchise et ne pas se limiter au premier. Alors messieurs, la question traditionnelle qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Julien.
Oui, premier souvenir, c'est de spammer la touche retour pour revoir un million de fois Johnny B. Goode à la fin du premier. On spoil, on est d'accord, là, de toute façon.
Oui, bien. Bon, je pense qu'on peut spoiler sinon. Ce film ici, quand même.
On en fait spoiler.
Oui. Oui, je pense qu'on peut.
Ouais, non, je regardais en boucle cette scène, j'en pouvais plus. J'avais un En fait, c'est le moment où j'ai eu un magnétoscope dans ma chambre. Mon père m'avait filé un magnétoscope avec une télé. Et je regardais juste en boucle, mais sans jamais perdre aucune once de plaisir à chaque visionnage. C'est là, bah elle est géniale, la scène est géniale. Okay.
Genre tu l'as rejoué en playback ou pas du tout?
Non, je la regardais vraiment religieusement.
Et c'est vrai que du coup, cette chanson qui n'avait pas forcément vocation à être connue par tous les ados de l'époque, bah maintenant tout le monde la connaît et tout le monde l'associe à Retour à le futur, alors que là-bas c'est Chuck Berry en mode, pas du tout musique de film. Quoi.
Mais non, justement, c'est Marty McFly qui l'a inventé, c'est pas suivi le film.
C'est ça qu'on se dit maintenant, c'est
assez incroyable. Berry.
Limite, j'ai l'impression qu'on pense plus que c'est la musique de Marty que de Chuck Berry. C'est assez incroyable.
Ça crée d'ailleurs un truc un peu bizarre, parce que normalement c'est Chuck Berry justement qui est un rocker noir qui a inventé le rock, et là ils le font réinventer par un jeune blanc
c'est
qui
vrai,
vient du
futur.
C'est un peu chelou en termes de révisionnisme.
C'est vrai.
Guillaume, ton premier souvenir de ce film?
Mon premier souvenir, on en avait déjà parlé, c'était je suis allé voir au cinéma avec mon père et ma sœur, et c'était le premier film dont j'ai le souvenir au cinéma. Alors je suis allé voir le 2 en premier, donc inutile de dire que j'ai rien compris, parce que déjà j'étais petit, en plus c'était le 2,
Et en plus, le 2, il est plus compliqué que le 1, puisqu'ils reviennent dans le 1, pour ceux qui ont vu le 2, évidemment. Et en fait, je me souviens juste que je me disais, mais attends, ce mec-là, son look est cool, sa façon de parler est cool, il sait faire du skate, il est cool, tout est cool chez lui, tu vois. Et je me disais, c'était fou. En fait, tu sais, quand t'es petit, tu dis, ok, la scène du skate, bon bah, c'est la meilleure scène de toute la Terre, tu vois. Et je me souviens que, carrément, j'étais assez petit pour me dire que Biff, il me faisait peur. Griff, il me faisait peur dans le 2. Et en le revoyant ce matin, j'ai revu le début, parce que bon, je me suis mis dans l'ambiance. Et pareil, j'avais eu peur sur la scène de Jaws 19, quand le requin sort en
3D. Hier encore, t'as eu peur ou...
Non, hier, ça allait. Ce matin, ça allait, tu vois. Et quand j'étais petit, j'étais... Oh! Tu sais, c'était un effet de fou sur moi, tu vois.
Et d'ailleurs, c'est hyper bien fait, je trouve. Ça a pas mal vieilli.
Les effets spéciaux, en général, sur le 2, pas trop mal vieilli.
Non, ça va, c'est cool.
Mais si je peux me permettre, je pense que Marty McFly a le meilleur look de tout le cinéma.
C'est vrai qu'on en a déjà parlé.
C'est le meilleur look de tous les héros de cinéma, pour moi.
Est-ce qu'il y a comme ça un héros de cinéma qui a un... Indiana Jones, quand même, le look est pas mal.
Ouais, mais tu t'habilles pas en Indiana Jones.
J'ai déjà dit.
Julien, comme ça, il y a un look comme ça dans l'histoire du cinéma qui te revient en tête ou pas du tout?
Marty McFly. Voilà. Non, j'ai pas d'autres exemples. Après, il a plusieurs looks. Hein. Justement, je les ai revus. Moi, ça m'a donné une bonne occasion. Hein. Je te disais tout à l'heure de les revoir. En tout cas, j'ai revu les deux premiers. J'ai pas eu le temps de revoir le 3. Comme souvent d'ailleurs. On en parlera sûrement
sur le 3.
Mais il a plusieurs looks en fait, finalement, quand même. Mais ils sont toujours très stylés.
Mais oui,
oui, parce que même finalement, dans le 3, justement, il a des looks où il se fait appeler Clint Eastwood, etc. Il a des looks assez cool de cowboy, quoi. C'est chouette. Franck, ton premier souvenir de Retour à le futur?
C'est terrible, mais ça va être exactement le même que Guillaume. C'est le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma, j'avais 5 ans.
Nous sommes la même personne.
C'est exactement ça. Attends, c'était où? C'était dans quel ciné?
C'était à Fontainebleau.
Parce que ça aurait été une anecdote assez folle.
Ça aurait été génial.
Il y avait un mec à côté de moi qui gueulait, qui parlait tout le temps.
Et même la deuxième chose, c'est un peu ce qu'il a dit, c'est que quand on l'a eu en cassette, enfin quand on l'a enregistré, ça devait passer sur la une ou je sais pas quoi, donc on l'a enregistré sur une cassette vidéo et je me passais en boucle la scène du hoverboard parce que la scène est juste ouf. Quoi. Donc voilà, très, très très bon souvenir. Après, qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas quand j'étais petit? J'ai pas pigé tout de suite qu'ils avaient vieilli les personnages et tout. C'est tellement bien fait que quand t'es gamin, tu penses même pas en fait que c'est les mêmes mecs qui jouent tous les rôles dans toutes les époques. Et l'autre truc aussi, c'est que j'avais pas compris que c'était Michael J. Fox qui jouait sa sœur. Ça, je l'ai compris des années. Ça m'a mis des années avant de percuter que c'était lui, quoi.
Il joue toute la famille, le mec. À part sa mère, quoi.
Et moi, j'ai compris très tardivement aussi que Jennifer changeait. Hein. Vraiment, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais...
Si on la voit pas trop dans le 2, quand même.
Non, mais pourtant, j'ai un souvenir très précis de chez moi, d'un coup, revoir tout. Enfin, enchaîner le 1 et 2, mais alors que je l'avais déjà fait plein de fois. Et d'un coup, me dire. Mais attends, et c'est fou, elles sont tellement différentes, et pourtant, t'es pas dans l'intrigue, t'es tellement sur Marty en plus et tout. Ouais. C'est pas le rôle le plus important, malheureusement, de Jennifer, tu vois. Ouais. Et donc, vraiment, c'est fou de l'avoir vu autant de fois, d'être passé à côté d'un truc aussi énorme.
Bah, la raison pour laquelle la première actrice n'a pas joué dans le 2, c'est parce que sa mère était malheureusement malade à la suite du tournage du premier. Cancer assez grave et du coup elle a dû arrêter sa carrière, enfin elle a pris la décision d'arrêter sa carrière pour s'occuper de sa mère, donc ce qui est hyper noble, et du coup plus toute carrière pour elle, elle a dû être remplacée et maintenant elle est dans des conventions, souvent c'est un peu les personnages un peu vraiment secondaires ou tertiaires pour choisir pour des conventions.
Une boutique de retail Emporio Armani où elle se fait prendre en photo par les fans régulièrement.
C'est Aurélien, ton premier souvenir? Ah pardon, vas-y.
Non, je disais, est-ce qu'on peut dire une anecdote sur justement Jennifer dans le deuxième, tout ça?
Ben écoute, je t'en prie.
En fait, ils ont dit qu'ils n'avaient pas prévu du tout qu'il y ait un deuxième film. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça.
Ouais, bien sûr.
Et que du coup, ce qui les faisait chier le plus scénaristiquement, c'est d'avoir foutu Jennifer dans la DeLorean à la fin du premier film.
Ça se sent, ça se sent quand tu vois le deux.
Et ça se sent tellement qu'ils ne savaient pas qu'on foute que littéralement, ils la sortent de la DeLorean, ils la posent dans un tas de poubelles. C'est juste un truc improbable.
Mais du coup, ils en font quelque chose d'assez cool, Jennifer, dans le 2, finalement. Parce qu'elle rencontre son soi du futur. Ils s'en sont bien sortis.
Elle tombe dans les pommes et on la revoit jamais.
Non, mais moi, surtout là où tu sens qu'effectivement ils en voulaient pas, c'est après pour la suite du film où il la redépose. Il faut non, mais t'inquiète pas.
Sur
tout
Porsche.
L'espace, le continuum, espace-temps va rentrer dans l'ordre, donc elle va rester là et tout va bien et on s'en débarrasse.
C'est vrai. Toi, Aurélien, ton premier souvenir du film?
Moi, c'est le 3. C'est les cowboys. J'étais fan des cowboys. C'est resté mon film préféré. Non, c'est une grosse blague. Non, je crois que c'est la toute première scène du premier film. Moi, j'ai découvert en cassette vidéo. Et c'est ce truc avec la guitare là. En fait, je trouve la mise, tout le côté sonore de comment c'est mis en place et tout. Tu connais pas le personnage, tu vois que les petits détails. Tu le vois monter le son à fond là. Et tu vois quand il tape le premier truc, il fait waouh et ça le met en arrière. Je sais pas, j'aime trop, tu sais, les horloges. Il met son skate et ça tape contre un truc de plutonium. Ouais. En fait, il y a tout dans le générique. Et c'est la première image que j'ai quand je me rappelle de Retour vers le futur, c'est ce premier générique-là.
Ça, c'est une habitude de Zemeckis dans la réalisation, parce qu'il fait un peu pareil avec Roger Rabbit. C'est-à-dire montrer tout ce qui compose une pièce.
Ouais.
Là, il commence avec ça dans Retour vers le futur. Il monte les horloges, il monte les pieds de Marty, qui balance le skate, etc.
La
et dans Roger Rabbit, il fait pareil dans le bureau.
Ah ouais.
On voit les images du détective Valiant avec son frère, etc. Et tout ça, ça nous explique la situation. C'est hyper bien fait. Tu veux dire quelque chose, Guillaume ?
Non, j'allais dire, c'est quoi ton premier souvenir de Retour vers le futur ? Et surtout, là, on en a parlé depuis 5 minutes et on a tellement d'images en tête de ce film, tu vois.
Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est
quoi, j'ai repensé en venant ici, je me disais, mais en fait, je connais toutes les scènes, et toutes les scènes sont bonnes, et toutes les scènes j'ai une image, et toutes les scènes il y a des props, et toutes les scènes il y a des souvenirs, c'est incroyable.
Bah déjà, avant de raconter ça, pour moi il y a une phrase qui caractérise bien Retour vers le futur, et c'est Guillaume qui me l'avait balancé il y a quelques mois.
Figurez-vous, j'en souviens pas, j'ai hâte de la redécouvrir.
C'est pas une citation, calme-toi. Mais tu m'avais dit, Retour vers le futur, c'est le genre de film, et rares sont les films qui se retrouvent dans ce cas-là, quand tu tombes dessus par hasard à la télé, tu laisses.
Bah oui, bien sûr.
C'est rare finalement ça. Tu sais que tu l'as vu 1000 fois, mais tu tombes dessus à la télé. Tu laisses.
En plus, moi, j'ai même envie de dire, il y a des fois des films comme ça où tu te dis, je sais pas, les Star Wars, Indiana Jones, tu les revois. Il y a toujours un moment où tu te dis, ouais, bon, c'est bon, je connais par cœur, ça saoule. Retour vers le futur, non. Je sais pas, il y a un truc en plus, je sais pas, il y a un truc qui fait rigoler.
C'est comme si c'était une mélodie qui fonctionnait parfaitement un tube.
Ouais,
c'est comme si c'était un tube musical, mais visuel.
Il y a un truc hyper léger. Hyper léger et second degré aussi. Qui reste. Ça reste un truc, c'est une histoire un peu, voilà, c'est juste pour. C'est marrant, quoi, en fait. C'est juste marrant, en fait, ce truc, tu vois. C'est ni une comédie ni rien, c'est juste un film feel good. Pour moi, c'est le film feel good ultime, tu vois.
Moi, mon premier souvenir, je crois que c'est Retour vers le futur 2. Et comme on a à peu près tous le même âge ici.
On est vieux, quoi.
Ouais.
Globalement. Hein.
Non, je connais pas l'âge de Julien, donc je vais pas.
J'ai 29 ans.
Bah voilà, bah, tu vois, on est plus vieux que toi. Mais du coup, c'était Retour vers le futur 2. Et je me souviens qu'on était chez des amis de ma mère. Et il passait sur Canal+, et moi j'étais dans la chambre des amis, et j'avais allumé la télé comme ça, et c'était au milieu, et je me souviens même de la scène quand j'ai allumé la télé, c'était le moment où ils vont dans la maison du futur, voir leur propre eux du futur.
Avec le panier de fruits pourris là.
Exactement.
Qui tombe du
fait. Et après, je les ai eus en cassette, et Retour vers le futur 2, il était en cassette chez ma grand-mère, et tous les soirs quand j'entrais de l'école, j'allais chez ma grand-mère et je le regardais tous les soirs. Mais vraiment tous les soirs, c'est-à-dire que je faisais mes devoirs, et c'était la seule cassette, je le mettais tout le temps. Donc j'ai dû le voir peut-être.
Mais en fait, c'est quand t'es petit, t'es fou en fait.
Mais oui, tu t'en fous de voir le même film tous les jours.
Tu te lasses jamais. C'est incroyable.
Mais c'est aussi parce que tu t'apprends des choses en même temps, et moi j'ai vraiment des souvenirs précis comme ça de gamin en revoyant un film que tu vois régulièrement, comprendre un truc de plus parce que t'as appris un truc la semaine d'avant.
Ouais, c'est vrai.
Tu fais, ah, mais je comprends cette vanne maintenant. Je l'avais pas avant la semaine dernière.
Et c'est drôle parce qu'en parlant de ça, je me souviens que ma grand-mère a regardé une série qui s'appelait Maggie. Je sais pas si ça vous
bien
parle,
sûr,
Maggie.
Bien sûr, ouais.
Avec Marthe Villalonga.
Ça parle qu'aux deux vieux ici autour de cette
table. J'avais compris Nagui, donc.
Ouais, tu vois, dans ta tête, pas dedans, c'est bien.
Jean-Marc Thibault, Marthe Villalonga.
Eh ben, exactement.
Ouais. Jean-Marc Thibault, oh là là. Rosie Vart.
Eh bien, Maggie, c'était une série dans les années 80, et ma grand-mère regardait ça, et ma grand-mère et mon grand-père rigolaient. Enfin, ils riaient quand ils voyaient les scènes. Et moi, je comprenais pas les vannes, j'étais trop petit, quoi. Donc, je faisais exprès de rire à côté en mode, je l'ai capté cette vanne, tu vois, pas du tout. Et quand on est petit, on fait ce truc de faire genre, on rigole à des scènes qui sont censées drôles parce que les parents ou les grands-parents rigolent. Non, personne n'a fait ça aussi.
Je l'ai fait, je l'ai même fait, tu sais, le lendemain, tu vois, quand t'arrives à l'école le matin et que les potes, ils ont fait, ah, t'as vu le film hier soir? Et tu sais, ta mère, elle t'a fait, non, tu veux coucher, tu vois. Et tu fais, ouais, grave. T'es obligé de le dire, tu vois. C'est un truc d'intégration aussi, tu sais. Quand tu regardes un programme et tu comprends pas une vanne, tu rigoles. Moi, je me regarde, mes parents, ils regardaient des sketchs de genre de Smain et tout. On est en train de parler de trucs de vieux, là. Parce que Smain, plus personne sait qui c'est. Et pareil, j'étais là, trop marrant, je comprenais rien, tu vois.
Alors, Franck, en intro de ce podcast, tu disais que tu possédais beaucoup de voitures de films. Et une des raisons, entre autres, pour laquelle on t'a invité, c'est parce que, en France, t'es l'un des rares à posséder une DeLorean. Et en plus, une DeLorean qui ressemble à celle du film. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette DeLorean? Comment tu l'as eue? Comment tu l'as upgradée, etc., etc.
Vous êtes accrochés? On va y aller.
Excuse-moi, avant de te couper.
Vas-y.
En fait, je vais expliquer comment on s'est rencontrés. Je cherchais un cadeau d'anniversaire pour Guillaume, à l'époque.
Ouais.
Et comme je sais qu'il est fan de Retour vers le futur, je m'étais dit, ok, ce serait cool de trouver quelqu'un qui a une DeLorean. Lui bander les yeux et en mode tiens vas-y tu vas faire un tour dans la DeLorean quoi. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré et c'est ce qui s'est passé.
Incroyable
assez cool.
Cadeau, ouais. Ouais,
ça a marché. C'est mon anniversaire en juin si jamais.
Comment
en juin c'est mon anniversaire, je vous le dis.
Donc vas-y raconte-nous cette fameuse histoire.
Mais cette voiture elle est inscrite dans mon ADN à force hein, parce que depuis que je suis gamin j'en rêvais. Quand on était petit on savait pas que ça existait, on croyait que c'était un truc qu'ils avaient fait que pour le film quoi, parce que c'était pas une voiture que tu voyais dans la rue quoi. Quand j'étais au lycée et qu'Internet est arrivé dans les années 2000, on est très vieux, Le premier truc que j'ai tapé sur Lycos à l'époque, puisqu'il n'y avait pas Google, c'est DeLorean, et je suis tombé sur le site internet de DeLorean aux États-Unis, puisqu'il y a une espèce de micro-entreprise qui continue à faire vivre la marque. Et j'ai vu que pour 35 000 $, tu pouvais acheter une DeLorean. Anecdote que je vais balancer ici, que je n'ai jamais raconté ailleurs. À l'époque, j'ai piqué la carte bleue de mon grand-père et j'ai acheté une DeLorean sur internet.
Mais non. 35 000 $?
Wow. 35 000 $. Sa banque l'a appelé le lendemain. Vous êtes aux États-Unis, monsieur? Il me fait, Franck, qu'est-ce que t'as fait? Je croyais que c'était une miniature. Mais moi, je pensais qu'il était multimilliardaire. Moi, j'avais l'impression que mes grands-parents étaient super riches. Donc, je me suis dit, ouais, le verre un peu passé, c'est bon, on a une DeLorean qui va arriver à la maison. Voilà, petite histoire. C'est la première fois que j'ai essayé d'acheter une DeLorean. La deuxième fois, c'était longtemps après, quand j'ai commencé à bosser. L'idée m'avait pas quitté. Et la première année où j'ai bossé chez Peugeot à vendre des voitures, j'ai acheté une DeLorean qui est devenue mon daily driver. C'était ma voiture de tous les jours. J'ai roulé je crois en 2 ans, j'ai dû faire 30 000 bornes avec, ce qui est énorme.
Quand t'as acheté cette DeLorean, il y avait rien dessus. C'était juste une
DeLorean. Elle était complètement d'origine et elle était complètement pétée de partout. Les sièges étaient à moitié déchirés. Enfin, elle était dans un état apocalyptique. Je l'avais payé 15 000 €, ce qui était, à l'époque, c'était dans les prix. Maintenant, c'est vraiment pas cher parce que les prix ont bien monté. Et je roulais pendant quasiment 10 ans avec, strictement d'origine. Et à l'approche de 2015, et de l'anniversaire, en fait, c'est même pas un anniversaire, de la date du futur du film, donc le 21 octobre 2015, quelques mois auparavant, je me suis dit, allez, c'est le déclic, ça faisait des années que j'hésitais à la transformer, j'ai fait, vas-y, j'y vais. Mais le problème, c'est que pour la faire bien, il faut avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, trouver les bonnes pièces.
Tu peux faire,
ça m'a pris des années. Pas à la montée. À la montée, ça m'a pris 2 mois. Mais à trouver toutes les pièces, et je m'étais dit, je la monte pas tant que j'ai pas toutes les pièces, parce que je veux pas faire un truc à moitié dégueulasse.
Surtout qu'elles sont chères, les pièces, en plus.
Là, les pièces, c'est une catastrophe. Juste les pièces pour transformer une DeLorean en DeLorean de Retour au Futur, t'en as pour plus cher que la voiture elle-même.
Ok, d'accord.
Donc on est
convecteur temporel, tout ça.
Un convecteur temporel, si t'en veux un bien, c'est 1000 balles. Le clavier temporel, ça, c'est le pire, ça vaut quasiment 2 000 €, juste cette pièce-là. Mmh. T'en es à 35 000-40 000 € de transformation, quoi.
Ah oui,
mais quand je la vois maintenant, je la regarde, je me dis, mais
tu m'étonnes.
J'ai l'impression d'avoir celle du film, quoi. Tu sais, c'était une petite sensation.
Il te manque des choses aujourd'hui pour la customiser comme dans le film?
Elle est à 90%. Il manque toujours 2-3 petits trucs, mais c'est le kiff de se dire, il me reste encore ça à faire. Et puis t'as l'impression d'être Doc Brown quand tu poses un truc et que tu allumes et que ça marche.
Ah, wow.
Mais ça marche pas d'ailleurs.
Comme genre de conneries, te manque quoi sur la voiture, par exemple?
Là on va rentrer dans du truc vraiment, vraiment.
Pour que les gens comprennent, vraiment les gens qui. Quand
Marty part dans le futur, la première fois, on le voit bien, il y a la caméra qui est face à lui, il y a une espèce de truc qui fait de la lumière derrière lui. Ce truc-là, je ne l'avais pas, je l'ai acheté, il faut que je l'installe, par exemple.
Okay.
Des choses comme ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai installé la console au plafond, il y a tous les boutons, ça je ne l'avais pas, je l'ai mis, donc voilà, c'est au fur et à mesure.
Du coup, avec Guillaume, on a fait un tour dans ta DeLorean, en plus,
c'est fou.
En plus, quand on fait un tour avec lui, il met la soundtrack de Retour à le futur.
Tu peux rentrer ta date d'anniversaire.
Ouais.
C'est vrai.
Dans le...
Ah, c'est ce qu'il avait fait pour toi, c'est vrai.
Incroyable.
Ah ouais, c'était tellement cool.
Incroyable.
C'est un bon pote, ce mec.
C'était vraiment charmé, c'était trop bien ce jour-là. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comme ça ce que tu possèdes comme voiture, enfin les licences, les films, quoi?
Ouais,
je sais qu'il y a Ghostbusters, il y a quoi d'autre?
Fast and Furious, on en a 11.
Ouais.
C'était pas prévu, mais ça, c'est arrivé en un an. Là, on est passé de 0 à 11 voitures. Jurassic Park, on a la Jeep, le Ford Explorer. Maintenant, on a le ML aussi, du Monde Perdu.
Ah, pas mal.
Et la moto des chasseurs dans Le Monde Perdu qu'on voit 2 secondes dans le film, mais j'en ai trouvé une et c'était marrant. On a la vraie caisse de Men in Black, ça j'en suis fier, on n'en parle pas beaucoup et les gens, c'est pas celle qu'on loue le plus souvent parce qu'on les loue ces voitures. Mais on a la Ford Merdissimale de Men in Black, quoi, et ça c'est cool, c'est la vraie du film.
Trop bien.
En vraie caisse, on a la 406 de Taxi 2. Et ça, c'est de tous les taxis, c'est celui que j'ai regardé en boucle. C'était un des premiers DVD que j'ai eu quand j'étais gamin. Et le film, je le connais par cœur. Et d'avoir la voiture du film avec les sacs à vomi derrière et tout, c'est une nerf pour moi d'avoir
pas,
ce truc.
C'est pas celle-là qui a le plus de succès dans ta collection? C'est pas un truc comme ça?
Honnêtement, vraiment, en termes de... Que ce soit succès populaire et en termes de location, ça reste la DeLorean.
La DeLorean, ouais.
Ah ouais?
Ouais, de très loin.
Pour des mariages, trucs comme ça, ou des événements.
Ouais, parce qu'en plus, pour un mariage, tu vois, c'est une manière de comment dire, ça parle de l'avenir, tu vois, c'est la voiture qui voyage dans le temps, donc c'est un symbole en plus d'être un kiff, quoi, pour les gens.
Il faut que ta meuf accepte, tout ça, tout ça.
c'est plus compliqué.
C'est un délire. Et oui, je sais qu'il y a aussi la moto d'Indiana Jones. T'as la Batmobile.
Batmobile Tim Burton 89, qui pour moi est la plus belle. D'ailleurs, petite anecdote, je viens d'en acheter une deuxième.
Ah ouais, laquelle?
Non, mais en fait, les gens me demandent souvent comment je trouve mes voitures. Et en fait, il n'y a pas une réponse unique à ça. Des fois, c'est eBay, des fois, c'est.
Connaissance.
De bouche à oreille.
Est-ce que c'est toujours avec la carte bleue de papy ou ça a changé?
multimillionnaire, Anthony.
Non, c'est
encore une Batmobile.
En fait, mon grand-père, c'est Bruce Wayne. Mais mais donc ouais, là, j'ai trouvé une deuxième Batmobile par un follower sur Instagram qui m'envoie une copie écran de la story d'un autre mec. Donc déjà, le truc, c'est du troisième level, quoi. Et au fond de la photo, tu voyais un nez de Batmobile, mais genre derrière d'autres bagnoles, quoi. Et en remontant le filon, bah, je suis tombé sur les gars qui avaient le garage où il y avait la bagnole, et ils me disent « Ouais, bah, en fait, on sait pas quoi en foutre de cette voiture. » C'était une voiture qui était à Six Flags, sur l'attraction Batman. Donc elle servait, il y avait un show Batman, comme le show Waterworld qui est à Universal. Ils avaient un show avec Batman qui conduisait la Batmobile, qui pétait la tronche au Joker et tout. Et cette bagnole, ils ont arrêté de s'en servir, elle a fini là, et on vient de l'acheter. Donc c'est cool, on a une deuxième Batmobile.
Trop bien, cool. De toutes les voitures qu'il a citées, Julien, il y en a une dans laquelle t'aimerais te balader ou pas? J'imagine la DeLorean.
Oui.
Quel fan.
Non, j'ai la chance de monter dans des DeLorean parce que j'ai fait pas mal d'événements. Ça se trouve peut-être même la tienne, en fait, je réalise.
Sur les conventions, j'ai un très bon pote qui s'appelle Jérôme. Ça doit être lui, à mon avis. Ça doit être
ouais, il y a des projections voiture. Aussi au Max Linder où j'ai la chance de les voir et tout, mais j'ai jamais fait de tour vraiment. Et je crois que je n'oserais pas la conduire. C'est trop mythique pour moi. Ouais. Genre, je n'oserais pas. Est-ce que t'as le compteur qui monte à 95? Parce que j'ai vu ça récemment, les DeLorean de base montent à 85, ce qui est quand même ironique.
80, ouais, 85, exactement.
C'est drôle, ça.
Ouais, c'était une législation qui a duré 2 ans aux États-Unis. Ils se sont dit, bah, pour faire ralentir les gens, on va plus leur dire à combien ils roulent, en fait. Donc, okay. Ils ont mis 85 au max. Tout le monde s'en est foutu, donc au bout de 2 ans, ils ont laissé tomber. Et pour le film, ils avaient fait ouais, un sticker qui montait plus haut parce que... Alors, je sais pas si quelqu'un a l'anecdote, pourquoi 88, je sais toujours pas si c'était juste parce que le chiffre est beau ou...
J'ai une petite info là-dessus. C'est pas vraiment la réponse à ta question, mais j'ai une petite info sur les 88 miles à l'heure. Alors, si comme ça, d'instinct, on devait nommer un film traitant du voyage dans le temps, Retour vers le futur serait probablement le plus cité. Pourtant, cette thématique a très souvent été utilisée au cinéma, Aurélien.
C'est vrai, et justement pour refaire un peu un retracé de cette histoire de voyage dans le temps, parce que à mon avis c'est un truc qui est toujours resté dans les fictions, globalement, même dans les livres, on peut penser bien sûr à La machine à explorer le temps de H.G. Wells, qu'on va revoir ici, mais toutes ces créations, que ce soit littérature, bande dessinée, cinéma, série, on peut un peu les classer en 3 thématiques, à mon avis, que je vais vous expliquer tout de suite. Souvent, le voyage dans le temps, c'est pour réparer une erreur dans le passé. Très souvent, c'est le délire du film. Le mec, il a une vie de merde, où il y a un truc qui a foiré, et il se dit « Ah putain, si j'avais pu revenir en arrière, je ferais les choses autrement. » Et souvent, dans le film, en fait, il fait rien autrement, parce qu'il se rend compte que c'était mieux comme ça. Mais c'est toujours un peu le truc, tu reviens dans le passé un peu pour arranger quelque chose. C'est aussi un peu ce qui se passe dans Retour vers le futur, parce que finalement, il se retrouve par erreur, mais il gère mal un truc dans le passé, et puis il essaye de le réparer après. C'est aussi le cas de Peggy Sue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film de Francis Ford Coppola, qui est un petit film de Coppola dans les années 80, je pense, en 88 ou 89.
Il y a Nicolas Cage dedans, je crois, non ?
Exactement, bien sûr. C'est le moment où l'oncle Coppola, il essaye de placer un peu la famille partout. Et c'est un film où le rôle principal, donc l'actrice se retrouve à aller...
Kathleen Turner,
exactement, qu'on retrouve notamment dans La poursuite du diamant vert.
Et La guerre des roses, si je dis pas
exactement. Bêtises. Donc un rôle principal assez important qui se retrouve à une réunion de famille, enfin une réunion de lycée où elle retrouve tous ses anciens collègues de l'école et elle se réveille tout d'un coup le jour du bal de promo, sauf qu'elle est elle a toujours 40 ans, quoi. Enfin, c'est un peu ce délire de Camille Redouble là, où on est un peu dans une sorte de petite boucle temporelle où elle se rend compte un petit peu de toutes les choses qu'elle avait ratées quand elle était au lycée, etc. Très bon film à l'époque, mais donc elle essaye de réparer. Terminator, bien sûr, toute la licence elle est basée sur ça, en fait, ils essayent de réparer un truc, enfin c'est un mec, un robot qui essaye de buter quelqu'un dans le passé pendant que l'autre essaye de lui dire qu'il va se faire buter. Donc c'est un peu tout le concept de l'histoire.
Et juste sur Terminator, on disait en off tout à l'heure avec Julien me disait Terminator 2, aucune discussion, c'est le meilleur. Est-ce qu'on est tous d'accord autour de ce plateau?
La réponse, c'est oui.
La réponse, c'est oui, mais le premier est tellement bon.
Le premier est tellement bon.
Ouais, c'est beau, le premier.
Mais tu vois, la scène de l'overboard, pour moi, la scène de la mini-moto dans Terminator 2, c'est le même niveau. Je suis là, genre, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette scène? Quand t'es petit et que tu t'apprends comme ça, t'es là, mais waouh, c'est trop de tension, quoi. C'est trop bien.
Tu vois, Julien, sur YouTube, il y a des. Tu peux toujours revoir des scènes de films. Tu tapes le nom du film, puis scène. Et je crois que Terminator 2, c'est un des films que j'ai le plus tapé sur Google pour revoir la scène du centre commercial, dans un couloir comme ça, la scène de la poursuite avec la moto, comme tu dis, et tout. Il y a tellement de scènes cultes dans ce film, c'est incroyable. Donc pour toi, Terminator 2, Aucune discussion.
Ouais, et pour moi, il a un peu le potentiel de ce que tu disais, enfin ce que Guillaume du coup disait tout à l'heure sur, enfin, non, la dernière fois que t'avais rapporté les propos de Guillaume, ça, ouais, je me suis embrouillé, mais sur le fait que, pareil, quand je tombe sur Terminator 2, c'est fini, je regarde.
Ouais, pareil. Ouais.
C'est toujours comme ça, et ça fait partie, ouais, des deux qui sont ultimes. Moi, alors il y a peut-être plus de débats, mais Alien 2 aussi, je suis très 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 fan. Mm-hmm. Je sais qu'il y a plus de débats parce que le 1, il est très, il est encore plus sacré que Terminator 1,
c'est
je pense.
C'est encore plus un débat.
Moi, je
effectivement.
Ça,
mais
moi, c'est
après, le problème, c'est que Alien, Terminator, etc., ça passe beaucoup moins à la télé que Retour vers le futur. Retour vers le futur, toutes les vacances, c'est il y a un après-midi sur TF1 où il y a Retour
vers le
futur.
Il est passé le premier de l'année là. Je suis tombé dessus après le Nouvel An en gueule de bois et on a regardé tous ensemble, évidemment.
Bonne ambiance. Aurélien.
C'est un bon plan. Harry Potter 3 aussi, le prisonnier d'Azkaban, il y a tout un délire où ils vont essayer de réparer un truc qui s'est passé pendant, tu sais, elle a son petit pendentif et pouf, et on revit quelque chose qui a déjà eu lieu dans le film. Donc là, on se retrouve un peu dans une boucle temporelle qui est aussi un autre concept que les gens aiment bien, on le voyage dans le temps dans les films.
Pendentif qu'elle n'utilise plus du tout de la saga après.
Non, c'est une arnaque totale, ce truc. C'est, merci J.K. Rowling.
Ça serait pratique pourtant.
Ouais, j'avoue. Mais si on reste dans ce concept-là, moi, il y a un film qui m'a bien marqué, qui est un film de 2013, un film de Richard Curtis, le mec qui a fait Love Actually. C'est un film qui s'appelle About Time.
Oui, j'ai jamais vu celui-là.
Qui est avec Rachel McAdams, qui est sûrement un de ses meilleurs rôles. Le pitch est génial. Le mec se rend compte que, en gros, son père a un pouvoir et c'est héréditaire. Dès qu'il se passe un truc, si dans la minute, il va dans un placard et qu'il ressort, bah, il revient une minute avant.
Une minute avant ?
Ouais, oh, wow. Juste avant qu'il y ait un truc. Donc ça veut dire, dès qu'il se passe un truc, il fait « Attends, je reviens. » Il va dans le placard, et il ressort, et il peut revivre le truc.
Mais du coup, il peut revivre des trucs que chez lui, en fait.
C'est ça. Non, enfin, qui viennent d'arriver. D'accord. Parce qu'il va dans un placard, et il refait le truc qu'il vient de faire, tu vois.
D'accord.
C'est juste, il faut qu'il trouve un putain de placard. Mais en gros, dès qu'il trouve
un placard... Ah, c'est n'importe quel placard ?
Ouais, ouais.
Ah oui.
Et il arrive à essayer à chaque fois de... S'il se met... En fait, il faut qu'il se mette dans le noir. C'est jusqu'à à chaque fois, il trouve le truc du placard, tu vois. Il fait « Attends, je reviens ». Il va dans un placard, je sais pas.
Mais ce qui paraît, c'est cool.
Franchement, c'est un super film. Parce qu'après, il y a tout un truc justement sur l'hérédité, sur son père, sur le temps en général. C'est bien foutu. Et il y a ce truc de réparer, essayer toujours de réparer les choses, tu vois. Et à un moment, bah, son père essaie de lui faire comprendre. Il faut que, en gros, tu le testes par toi-même. Mais il y a des moments où finalement, essayer de toujours refaire les choses, ça te crée des histoires. Enfin, tu peux pas toujours avoir le beau rôle ou le meilleur moment, mais des fois il faut que tu laisses des accidents arriver, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que le rôle principal, c'est Domhnall Gleeson, qui à l'époque était un acteur pas hyper connu en 2013, mais c'est quand même le mec qui est devenu, tu sais, le général hyper méchant là, le roux dans les derniers Star Wars là.
Ok. Ah oui, exact.
Et qu'on voit aussi dans Game of Thrones. Enfin, maintenant, il est dans toutes les sagas, le mec. Il est aussi dans Avengers, je crois. Enfin, bref, il est partout, c'est assez légendaire. Et c'est aussi le premier rôle un peu principal de Margot Robbie. Quasiment 6-7 mois avant le Loup de Wall Street, elle a un rôle avec lui, et justement c'est un peu le trio avec Rachel McAdams. Okay. Il va très souvent dans le placard. La deuxième truc
attends. Parce que là on parle
du placard.
Non.
Réparer les histoires.
On parle des gens qui réparent les trucs.
Moi, j'ai
une
question aussi.
Il y a un film que t'as pas évoqué et je suis assez choqué. Est-ce qu'on peut parler de Time Cop?
Ah, j'avoue.
Oui. Non, mais attends, c'est vrai. Bah, non, mais il s'agit que de ça.
Est-ce que tu peux dire en deux mots, Guillaume, ton amour de Time Cop?
Mon amour de Jean-Claude Van Damme, en tout cas. Et mon amour de Time Cop. Time Cop, c'est un de ses meilleurs. Mais je veux dire, en gros, c'est ça. C'est que c'est un flic du futur qui revient dans le passé pour essayer d'endiguer le meurtre de sa femme. En fait, c'est ça. Je me souviens bien.
Il endigue ses meurtres.
C'est ça, en fait.
En vrai, Universal Soldier, c'est un peu ça aussi.
Universal Soldier aussi.
Il y a un bail.
Par contre, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là.
Il est un peu plus darkos. En plus, il y a Dolph Lundgren et tout. Mais c'est ça, c'est des mecs, des soldats du futur qui reviennent dans le passé. Ouais. Il est beaucoup là-dedans, Jean-Claude.
C'est vrai.
Il aime bien.
Je ne me souviens pas qu'il y avait un truc temporel dans Universal Soldier.
Est-ce que tu crois que si, pourtant, non.
Ah ouais, je voulais parler de ça.
Ah bon? Je confonds
à confirmer. Mais Universal Soldier, je crois que c'est juste des soldats. Il y en a un qui vrille et qui trouve qu'il y a des injustices parmi les autres soldats. Et puis voilà, ils se barrent et puis ils essaient de retrouver ce soldat. Je crois pas qu'il y a de trucs temporels dans Universal Soldier. Non.
Putain, je croyais. J'ai confondu les deux alors.
Tu vois, tu m'as embrouillé mon Aurélien.
Tu m'as pourri avec Jean-Claude là.
Non, mais par contre, tu parlais de boucle temporelle tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as pas. C'est pas dans la chronique, mais aussi un jour sans fin.
Ah là.
Bien sûr.
C'est ça que je voulais.
En fait, j'ai pas voulu aller sur les boucles temporelles parce que c'est pas vraiment des voyages dans le temps. Et il y a quelques films comme ça. Il y a le très bon Source Code aussi du fils de David Bowie qui avait fait Moon. Qui est un très très bon film aussi de boucle temporelle. Le problème, c'est que tous ces films-là, il y a un moment où si je vais jusqu'au spoiler, en fait, c'est pas toujours vraiment des voyages temporels. Ouais. Des fois, c'est un peu des petites arnaques scientifiques, tu vois. Ouais, ce qui n'est pas le cas de Un jour sans fin. Mais Un jour sans fin, c'est vrai, c'est une vraie boucle. Hein. C'est pas très loin.
Le looper aussi. Qui
exactement, vrai, dans le même genre. C'est, ouais. c'est un peu dans la boucle temporelle.
C'est un des seuls films en vrai de Voyage dans le temps hors Retour vers le futur qui m'a vraiment.
Mais moi, j'ai bien aimé Looper, c'était assez cool.
Je trouve qu'ils sont allés aussi loin que Retour vers le futur 2, tu vois, avec des trucs parallèles, carrément des organisations autour du fait qu'il y a du voyage dans le temps. Ça, c'est un peu la deuxième partie.
Original quand même pour un film qui est pas si vieux et qui a eu tout ce que tu as cité derrière quand même. Exactement. Avant donc
exactement.
Et aussi Joseph Gordon-Levitt est assez pas mal foutu en Bruce Willis parce qu'ils lui ont retrafiqué son visage pour qu'il ressemble à Bruce Willis jeune. C'est assez bien fait, je trouve.
Des sourcils comme ça là, il voit rien je pense, mais c'est assez bon.
Si vous avez pas vu Looper, très cool comme film.
Ouais, pareil dans les 2012, regardez avec About Time, c'est pas mal parce que Le Placard plus Looper, ça... enfin bref. Ouais. Le deuxième truc qu'on fait souvent quand on fait des films sur le voyage dans le temps, c'est la confrontation d'époque parce que ça fait des situations marrantes. Alors bien sûr, on a tous vu Les Visiteurs. Les Visiteurs, c'est la blague numéro un. On prend des chevaliers, des mecs qui habitent dans le Moyen-Âge, on les met dans le monde de maintenant, bien sûr. Ça fait des blagues à ne plus savoir qu'on foutre.
On les met à New York aussi, on peut les mettre à New York aussi.
Bien sûr, après, on fait ce qu'on veut. Et après, t'as l'inverse aussi. Par exemple, dans le Evil Dead, le 3, Army of Darkness, on envoie le personnage principal dans le Moyen-Âge pour aller tuer toujours des zombies et c'est là qu'il leur montre cette fameuse scène où il leur montre son fusil à pompe en disant ça c'est un putain de fusil, s'il y en a un qui bouge je vais bien vous enculer.
Tu vois celui-là je l'adore, les deux premiers Evil Dead sont cultes, mais celui-là je l'adore le 3.
Ouais, parce qu'il y a drôle. Un truc en plus, c'est Evil Dead plus Les Visiteurs.
Il y a un lâcher prise.
Exactement.
Et apparemment il y a un truc dans les 3 justement, Retour vers le futur 3, c'est un peu ça aussi, tu vois, il va dans un temps qui est à part. Il y a les Tortues Ninja 3,
j'ai oublié ça, tu vois.
Au final ça marche aussi pour les 3, donc j'ai l'impression que le chiffre 3 ça va avec la confrontation d'époque dans ce genre de film.
Tout à fait. Je me dis juste là, Julien.
Et il y a aussi Bill and Ted, pas hyper connu en France, mais le film qui a aussi fait connaître aux États-Unis notre ami Ken Reeves en 89, où deux quand même genre Wayne's World un peu en
mode, ça, c'est débiles. Un peu mélange entre Wayne's World et Retour à le futur.
C'est l'histoire où ils doivent réussir un contrôle de d'histoire pour le lendemain. C'est un voyage dans une cabine téléphonique. Ils vont voir Napoléon, ils vont voir tout le monde.
Ça n'a aucun sens. Ils arrivent à rencontrer Napoléon, Jeanne d'Arc. Il fait qu'est-ce que tu fais, Jeanne d'Arc? Bah là je vais me faire brûler. Ok. Et après, là je vais savoir ça pour mon contrôle d'histoire.
Et ils repartent tous ensemble dans la cabine.
Exactement.
Ils ramènent Napoléon dans le présent.
Et alors le pire, c'est que le numéro 2, c'est un numéro 2.
Ah ouais.
C'est encore pire, mec. Ils ont mélangé Retour vers le futur avec donc Beavis and Butthead, Wayne's World et Terminator. Parce qu'il y a donc Bill et Ted qui sont des robots qui se baladent dans le passé pour essayer de les buter. C'est n'importe quoi. Et
ils font le 3 surtout.
Ils sont en train de faire le 3.
Ils font le 3,
et ils essaient de faire les mêmes têtes qu'ils avaient à l'époque. Ce qui est assez légendaire pour Keanu.
J'ai hâte
Reeves.
De voir ça, moi perso.
Ouais, c'est fou.
En plus, Keanu Reeves dans un rôle un peu drôle, on n'a pas l'habitude.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Ah ouais, puis là, il joue vraiment le bêta, quoi, comme on l'a rarement vu jouer. Mais alors, pour le coup, je trouve que Bill et Ted, ça nécessite un certain lâcher-prise en tant que spectateur.
Oui, aussi.
Ouais,
parce que je l'ai vu, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps avec mon pote Valentin Vincent. Et toute la première moitié, on était scandalisés.
Ça n'a aucun sens.
C'était la première fois que tu le voyais
Première fois, ouais. On en avait beaucoup parlé. Il y avait un coup de. Il est très culte, quand même, mine de rien. Il repassait beaucoup, justement, quand tu te renseignes un peu sur les films qui parlent de voyage dans le temps, tout ça.
Ouais.
Et à partir du milieu du film, il y a eu un certain lâcher prise. Et en fait, c'est devenu incroyable.
C'est
on était mort de rire, en fait.
Oui, voilà.
Mais j'avais eu du mal à cerner le ton, en fait, au début.
Pareil que toi, Julien, je l'ai vu pour la première fois, il y a un an, peut-être. Ouais. Et quand tu le découvres en 2019, t'es un peu en mode OK, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais vraiment, tu te laisses prendre au jeu, ça c'est cool.
Mais en vrai, si on découvrait Wayne's World maintenant, là, ça se trouve, on dirait pareil, non?
Peut-être.
Les mecs, pendant deux heures, ils parlent, ils sont là, ils sont débiles.
C'est des films qui se dégustent mieux quand t'es adolescent.
Ouais,
en fait.
Je pense, parce que t'es plus dans
comme
l'esprit.
Comme Mec, elle est au Maquès, c'est le même genre.
Ouais, ça correspond à des époques. Mais Et après, dans des films un peu plus, on va dire, indé, Cali, il y a un film qui est sorti en 1979, qui est un peu dans la confrontation d'époque, qui s'appelle Time After Time. C'est un film anglais avec McDowell, le mec qui joue dans Orange Mécanique, cette fameuse gueule, qui venait de faire d'ailleurs Caligula. Il a dit ouais, j'en ai marre de faire des gens complètement tarés qui veulent buter des gens et violer des gens. Donc je vais faire un film un peu cool où, alors attention, faut se mettre dans le film. Je joue H.G. Wells, donc l'auteur qui a inventé la machine à explorer dans le temps pour de vrai en fait, et qui veut suivre Jacques l'Éventreur qui a réussi à partir dans le futur. Donc il est plus dans le 19e siècle, mais il est parti en 1979. Donc en gros, c'est H.G. Wells qui se transforme en Sherlock Holmes, qui essaye de trouver dans le monde réel de maintenant le Jack l'Éventreur, en fait.
Okay.
C'est un film d'enquête, mais en même temps avec un passage temporel.
C'est marrant parce que là, ce que tu me dis, ça me fait penser à un film qui n'a rien à voir, mais qui est Last Action Hero.
Exactement.
Parce que dans Last Action Hero, finalement, il veut faire revivre tous les méchants. Ouais. Les faire venir à la réalité. C'est pas vraiment un rapport, mais...
Il y a un peu un fond comme ça, parce qu'il mélange finalement de la réalité avec de la fiction totale, parce que t'as un auteur qui est là, qui cherche un mec qui est censé être là aussi, qui existe, mais qui est plus ou moins un personnage de fiction. Ouais. Enfin, c'est un mélange un peu de plein de genres. Et c'est d'ailleurs la référence de Time After Time, le morceau de Cyndi Lauper.
Ah ouais,
parce que ça a dit quand elle avait expliqué que elle cherchait un nom un peu tartempion pour lancer son écriture, et elle a regardé dans le programme télé, et apparemment c'est un film en Angleterre, il passe tout le temps. Time After Time, elle a vu Time After Time, elle s'est dit, ah tiens, vas-y, c'est pas mal comme nom et tout, j'aime bien. Elle a commencé à parler du temps et elle a dit, ah, à un moment il va falloir que je change de nom, et elle a fait, bah c'est mort, je l'ai mis dans le refrain. Donc c'est resté c'est resté ça vient de ce film, en fait.
Très bien expliqué.
Et prochain donc, album avec Terminator.
C'est comme ça qu'elle fait. Elle a le TV guide et ça part en sucette. Donc je vous recommande ce très bon film, voilà, si on veut rester. Il y a aussi Pleasantville dans le même genre.
Très cool, Pleasantville.
Pleasantville, sorti en 99, qui est un peu dans le même genre, même si bon là c'est un monde qui est plus ou moins fictif,
noir
dans les
blanc.
Années 50, noir et blanc, et ils découvrent qu'il y a en fait un vrai monde, tu vois. C'est presque une sorte de plus Truman Show, mais j'aime bien aussi dans la confrontation d'époque. Après il y a un dernier quand même. Le troisième.
Guillaume, tu veux dire un truc?
Vas-y, j'ai encore oublié un truc.
Bah oui,
Jean-Claude Van Damme.
Bah non, les trois coquillages, Demolition Man, excusez-moi.
Ah ouais, c'est
vrai. Confrontation d'époque.
Mais alors,
c'est vrai ça.
C'est pas vraiment un voyage dans le temps, parce qu'ils ont été cryogénisés.
Oui, voilà, oui.
Donc en vrai, ils se réveillent plus tard, mais tu vois, en vrai, dans le fond.
Enfin bon, lui, c'est un voyage dans le temps.
Sa femme est morte, tout le monde est mort. Bon, c'est un voyage dans le temps quand même.
C'est un vrai. Mec, c'était une galère. J'ai regardé tous les voyages dans le temps qu'il y avait. J'ai dû faire des sélections.
Tout à l'heure, Julien parlait de Alien 2. Mais dans Alien 2, il y a un peu une notion de voyage dans le temps. Parce qu'au début du film, Sigourney Weaver a une discussion avec Paul Reiser. Et elle, bah, finalement, elle était dans un tube comme ça pour le voyage. Et elle lui dit, voilà, bah, votre fille vient juste de mourir.
Ouais, il y a une distraction temporelle. Quoi.
Alors qu'elle, elle se dit, bah, je vais retrouver ma fille. Mais sa fille, à 89 ans, elle voit une photo de sa fille et tout. Donc il y a aussi ce truc de confrontation.
Et pour moi, d'ailleurs, ça c'est Interstellar en mieux.
Ouais,
avant
Interstellar. Bah, voilà,
j'ai pas compris pourquoi les gens étaient autant à fond sur cette scène d'Interstellar.
C'est vrai,
dans Alien 2, c'est ça, en mieux.
C'est
ça rend du fou.
Ils ont déjà ça. Mais ça correspond justement à ma troisième partie qui fait que dans certains films, le temps devient carrément impartial. Personnage à part entière. Et là, on se balade, là. On part en sucette. Le grand spécialiste, c'est Terry Gilliam, quand même. Lui, il l'a fait absolument dans quasiment tous ses films. Je vous recommande quand même Bandit. J'ai jamais compris pourquoi il l'avait appelé Bandit. Time Bandits, très bon film où tu te balades avec des nains dans le temps et l'espace. Tu comprends rien, mais tu te balades, c'est rigolo. Et bien sûr, L'Armée des Douze Singes, qui est quand même, à mon avis, quand t'es dans un film de temporaire, une bonne référence, même si on met du temps à comprendre tout ce qui se passe.
La Planète des Douze Singes, qui est un remake d'un film français, d'un court-métrage français.
Ouais, La Jetée,
ouais,
de Chris Marker, même si c'est un peu le concept.
Oui.
En fait, c'est la fin, c'est le truc de l'aéroport. Ils disent que finalement, c'est exactement fait comme La Jetée de Chris Marker. Terry Gilliam, très fort. Nolan, bien sûr, Interstellar, il y a beaucoup de concepts de temps, jusqu'à ce truc de bibliothèque et tout le délire de la théorie des cordes. Enfin, Nolan, je pense qu'il est un peu, même dans Inception, il y a un peu un concept autour de ça, de comment le temps il passe plus vite quand t'es dans un rêve ou pas. Donc il y a une gestion du temps qui finalement devient même plus un voyage dans le temps, c'est juste comment on gère en fait dans la fiction la notion du temps, quoi. Et à mon avis, ça devient un super rapport important partout. Et aussi, avez-vous déjà vu
Attends, déjà vu, c'est avec qui? Ah, c'est pas avec Denzel Washington?
Exact, c'est un film de Tony Scott sorti en 2006 et un peu un de ces films arty où on comprend rien. Et en fait, Denzel Washington, qui est un flic normal sur une affaire un peu bizarre, se rend compte que finalement, depuis des dizaines d'années, le FBI travaille sur des voyages temporels et il se retrouve dans une histoire de meurtre intégrée avec des gens qui voyagent dans le temps, en fait. Et en plus, avec le style Tony Scott tel qu'on le connaît, qui est assez cool. Donc voilà, après, bien sûr, Retour vers le futur. Sur deux, très important.
Ouais, très.
Et
très important.
Bah oui, et puis il a inventé ce truc de genre qui ne tient pas debout d'ailleurs, mais quand si tu fais une ligne sur un tableau, on s'en fout. Mais
on
en vrai, c'est là où le temps est devenu un vrai personnage à part entière dans un film. Et moi, il y a un petit film, c'est parce que aussi j'aime bien le baseball, mais Fielder Dreams, jusqu'au bout du rêve de notre ami, j'allais dire le réalisateur, mais j'en ai absolument aucune idée, mais c'est avec Kevin Costner, qui construit dans un champ de maïs un champ de baseball, enfin un terrain de baseball parce qu'il entend des voix. et au final, il y a une équipe de baseball qui sort du champ de maïs, qui date de 1939.
Avec Ray Liotta.
Avec Ray Liotta qui finalement, ah non, je vais pas spoiler, qui vient jouer au baseball. Et il y a aussi James Earl Jones, le mec qui fait la voix de Dark Vador, qui est aussi un journaliste sportif. Enfin, c'est génial. Il y a plein de trucs dans le temps. Il y a plein
ouais,
de.
Cool.
Ça casse l'ambiance du temps globalement. Je vous recommande. C'est un film de 1989 que je regarde absolument tous les mois, je pense. Donc, je vous recommande de le regarder.
Non, il y a un autre film de baseball avec Kevin Costner qui est cool, que tu dois connaître.
Ben oui.
Parce qu'il en a fait beaucoup des films de baseball.
C'est son truc.
Avec Susan Sarandon.
Ouais, et des fois, c'est sa réplique. Dennis Quaid qui fait des films de baseball sinon. Parce que je trouve qu'ils ont la même gueule, ils ont un peu le même style de jeu. Et il fait aussi beaucoup de films de baseball
c'est
ou
vrai.
De football américain. Parce que le baseball, c'est un truc d'Americana. Là. C'est fait pour Kevin Costner, en fait.
Ouais,
c'est Bruce Willis, il faisait ça, on dirait non, ça marche pas.
Tous les Français n'y verraient pas la différence. Mais...
ouais, j'avoue.
Merci Aurélien. D'ailleurs,
bravo,
on parle de temps, vu qu'on parle de temps. J'ai une bonne question pour vous. Si vous aviez la DeLorean, vous iriez où et quand ? Une fois. Vous avez un one shot.
C'est très dur.
Je vous laisse réfléchir. S'il y en a déjà un qui a une idée, moi je pense que finalement, j'irais peut-être dans les années 50 aussi, comme Marty. J'aurais pas envie d'aller voir dans le futur, parce que je pense que ce serait un peu déprimant. Mais les années 50, ça me chaufferait bien comme
t'es
Marty.
T'es un nostalgique, toi ?
Non, mais je sais pas. C'est... En fait, souvent, je vois des photos des années 50. Et la musique qu'il y avait, les gens, comment ils étaient habillés, les voitures et tout, il y a un côté genre, t'as l'impression que c'est classe à chaque coin de rue, c'est assez incroyable.
Moi aussi, mais je me suis rendu compte d'ailleurs récemment que j'avais une vision très très biaisée des années 50, parce que justement, ma vision des années 50, c'est Retour à le futur, qui est la vision des années 50 des années 80. Donc déjà, en fait, c'est à travers le prisme d'un truc, en fait, qui est en plus le prisme du cinéma, donc par-dessus tout ça. Mm. Donc dans ma tête, ça a toujours été ça, les années 50 de Retour à le futur, les années 50 dans ma tête, en fait, quoi. Alors que c'est déjà édulcoré, c'est les enfants des gens qui étaient nés dans les années 50 qu'on fait ces films-là, enfin qui avaient vécu en tout cas vraiment dans les années 50, qu'on fait ces films-là pour rendre hommage et qui avaient déjà une vision sublimée de comme nous quand on pense à l'époque de nos darons et on se dit putain mais c'était dingue, tu vois. Genre...
On a toujours des visions sublimées des époques, toujours.
Oui c'est sûr.
Ouais ou très négatives mais 39-45 je suis pas hyper fan.
Ouais, moi perso j'aime bien, je la sublime un peu.
D'ailleurs, moi c'est un truc ça que c'est une question que j'aurais bien voulu poser dans la chronique mais justement ce truc de réparer une erreur. Si jamais vous avez dû vous retrouver si vous pouviez aller au moment où il y avait Hitler là, vous l'auriez buté ou pas ?
Il y a une série là-dessus.
Il y a une série
qui s'appelle Raising Hitler. Et c'est des gens qui remontent dans le temps pour aller élever Hitler. J'ai pas regardé, mais apparemment c'est assez drôle.
Pour essayer de lui faire changer
dans les années 90, sur les voyages dans le temps et voyages dans les corps, il y avait Code Quantum où il allait réparer des erreurs et il voyageait dans tout. Après, au final.
J'ai pas fait les séries moi.
Au final, oui, mais au final, il allait toujours un peu dans les mêmes époques. Mais c'est vrai qu'il allait dans des femmes, dans des hommes, etc. Il réparait des erreurs, etc.
Non, mais n'empêche, si tu retournes dans le passé. Pour tuer Hitler, mais que c'est à l'époque où il est un bébé. Bah, faut tuer un bébé, quoi, c'est relou.
Ouais, c'est toujours ça.
C'est un bébé devant toi, tu vois.
C'est toujours ça le problème. Ouais, faut le faire pile au moment où il fait genre, je vais écrire ma gueule.
Mais voilà.
Ah, c'est bon,
là, tu butes tranquille.
T'as soumis, là.
Mais buter le bébé, c'est chaud quand même, tu vois. Le bébé, il a rien fait à ce moment-là, c'est pas Hitler encore.
J'avoue. Après, c'est Minority Report. Tu sais, c'est ce moment où est-ce que tu condamnes un mec avant qu'il l'ait fait. Mais on sait qu'il l'a fait, mec.
C'est vrai.
Dans le passé.
Guillaume, toi, t'as la DeLorean. Tu mets quoi sur le cadreur?
Je vois où que j'irai. Ouais, tu sais, parce que bon, je me dis, bon, bah, les années 50, je vois à peu près, j'ai des images, etc.
T'y étais, non ?
J'ai envie d'aller voir, même s'il n'y a pas d'hommes, j'allais voir la préhistoire. Je vois ce que ça donne. Genre des méga dinosaures et tout, juste pour voir, tu sais, juste pour le voir une fois.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire ?
Ah, c'est ça,
fou.
Je suis d'accord.
En fait, bon, au final, je vais aller dans une autre époque, je vais faire quoi, tu vois ?
Ah, surtout, attends, tu vas avoir du mal à revenir. Si tu côtoies, si tu rencontres un dinosaure, tu vas avoir du mal à revenir.
Ouais, mais tu vois ce que je veux dire ?
Ah, ça, je suis d'accord. Revenir à une époque, tu sais, on n'a pas d'image. Donc, on
je vais revenir à une époque des années 80, bon, pourquoi faire ?
Non, mais j'ai une image d'une série ou d'un film où le mec, justement, veut faire ça et il est envoyé à la préhistoire. Et dès qu'il est sur place, il se fait bouffer par un dinosaure direct. Et j'arrive pas à me souvenir de la.
Oui, j'ai vu ce truc aussi.
C'est le rêve de.
Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était un peu le fantasme de Retour à la Future 4. Beaucoup. Il y a
exactement.
Eu beaucoup de fanart autour de la DeLorean avec un T-Rex derrière.
D'ailleurs, il faut savoir que l'attraction Retour à la Future qu'il y avait à Universal Studios à l'époque, quand elle existait encore, parce qu'elle a brûlé entre temps, le voyage que tu faisais dans le temps, c'était dans le passé, à la préhistoire, il est dinosaure.
Donc, ah, c'est vrai qu'il y a des vidéos. J'avais vu les vidéos de ce truc-là, tu peux les trouver sur YouTube.
Exactement, sur YouTube, tu peux voir.
Je ne savais plus que c'était ça.
Est-ce que vous pensez que c'est un mec du futur qui est venu dans le passé pour brûler cette attraction ?
Ah, écoute, tu vas un peu loin, mais pourquoi pas. Aurélien, toi, tu vas où ?
Moi, souvent, ce qui m'agace, c'est les mystères. Les trucs qu'on saura jamais.
Ah, Kennedy.
Genre Kennedy, genre, je sais pas, est-ce que Napoléon, il a été empoisonné, je sais pas quoi. Tu sais, un truc comme ça.
C'est bien,
et moi, je reviens pile au moment où là, t'as un mec qui est là qui fait « Ah, c'est toi, connard! On t'a vu!
Sauf que t'arrives au mauvais endroit et c'est toi qui te prends la balle de Kennedy.
Ah ouais, non, là, c'est con ça. C'est relou. Moi, ça serait le seul truc que j'aimerais bien, c'est, tu sais, à chaque fois, t'es là, t'as des milliers d'enquêtes, tu vois des milliers de films, des milliers de documentaires, et en fait, tu sais, tu sauras jamais.
Ouais,
en fait.
C'est vrai, ça rend fou.
Et j'aimerais bien être à pile à ce moment-là, vois, et exemple, de mes yeux dire, ah ok, c'était toi.
Tu vois, par exemple, j'aimerais bien revenir le soir du fameux assassinat dans l'affaire O.J. Simpson. Ouais. Comme ça, parce que je suis sûr que c'est à 99,9% lui, mais là, je serais sûr à 100%. Tu vois.
Ouais.
Et ça m'enlèverait de la frustration.
Tu vois qu'il sort avec ses gants là, tu fais, ah bah. Ouais, voilà.
Et donc, toi, Julien, alors, t'irais où tu...
Versailles, je pense.
Ah, Versailles, ouais.
Ouais, et bah, moi, quand je suis. Non, mais.
Mais quand...
enfin, pas le lieu, hein, oui. Ouais.
Parce que ça, c'est pas le T2.
Peugeot 206, ça marche pas rien. Tu peux y aller.
Non, époque Louis XIV. Quoi, époque la folie, ouais. Tu vois, mais fin de Louis XIV, du coup, quoi, voir les derniers, le Versailles magnifique de l'époque quand il l'a quitté, quoi.
Tu vois que. Il chiait derrière les rideaux, quoi.
Mais c'est ça, non, mais ça, on sublime, tu vois, parce qu'on voit des rois et tout, mais ils puaient tous.
Non, mais ouais, sûrement, on sublime de ouf, et en même temps, c'est tellement mystérieux pour moi, et le lieu est vraiment emblématique de ça. Je vous conseille vraiment d'aller à Versailles si vous y êtes jamais allé. Ça me fascine, moi. En fait, quand t'es dans les grandes salles de bal et tout, là, à chaque fois, je me fais la même impression, je dis, j'aimerais trop me téléporter là, il y a des siècles, quoi, et être en plein milieu d'un bal, être invisible, je m'en fous, je veux juste être témoin de ça, voir comment les gens s'expriment, parce que on voilà, comme tu dis, on se trompe sur tout, en fait, que sur évidemment l'odeur qu'ils avaient, comment ils s'exprimaient, tout ça, tout est faux, tout ce qu'on nous a raconté, il y a de grandes chances, tu vois.
Et du coup, ce qui est drôle, c'est que si tu devais y aller, bah tu serais obligé d'aller chez un mec de déguisement à Paris pour te déguiser comme ça pour pas être grillé avec tes vêtements maintenant.
C'est clair.
Donc tu serais obligé de t'habiller comme ça dans la rue avant de te télétransporter.
Non, mais j'allais dire par rapport à ce que tu disais, où on sait pas, on en sait rien, et moi c'est pour ça que je voudrais aller voir les dinosaures. Je me dis, bah attends, le tyrannosaure, on a inventé un cri, mais comment on
il
sait
lâche rien avec ces
mais comment on sait, tu vois, ça se trouve, le tyrannosaure il fait.
Alors juste, Guillaume, faut se rappeler quand même que dans un podcast, le podcast Freddy, tu nous avais dit que t'avais peur des rats. Donc les dinosaures.
Okay.
C'est un délire quand même.
Je dis, je vais les voir. Ok, je reste dans la caisse, je reste dans la bagnole.
Le truc de Versailles, j'avoue, moi pendant longtemps je trouvais ça nul, mais Marie-Antoinette, là, le film de Sophia Coppola, je me suis dit, ah, ça avait l'air assez pop, ça pouvait être assez cool. Je pense que c'était pas comme ça.
Après, il portait des Converse et tout, donc c'était vraiment sublimé. Franck, te direz-vous?
Tu vois, on parlait des dinosaures et franchement, on est la même personne. On pense le même truc. J'allais dire, je pense que si j'allais dans la préhistoire, je serais super déçu parce que les dinosaures feraient pas les mêmes bruits, auraient pas la même gueule que ceux de Jurassic Park. Donc j'aurais l'impression d'être dans un mauvais documentaire.
Parce qu'il paraît, ils avaient des poils.
Les dinosaures. Ouais, voilà. À mon avis, donc j'ai pas envie. En fait, je veux pas voir les dinosaures. Versailles, j'y étais il y a 3 semaines.
Ouais, des plumes ou des poils. Ouais.
Versailles, j'ai été à 3 semaines avec la DeLorean devant pour le tournage d'une espèce de petit court-métrage. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça serait drôle quand même. Tu vois, parce qu'en plus, il y a des nanas qui passaient en costume devant la bagnole. Je me disais, tiens, c'est comme si j'étais là et que j'étais habillé. Enfin,
c'est
voilà.
Drôle.
Non, puis c'est pour moi, en fait, pour moi, pardon, je reprécise sur Versailles, mais pour moi, c'est le climax de la démesure, en fait. Ouais. De la démesure humaine, du décalage entre le peuple et les dirigeants. C'est là où il y a eu les trucs les plus affreux, les plus incroyables, les plus gros meurtres, les gens qui se font empoisonner, même à Versailles.
Toi,
même,
tu veux voir ça de
y a eu des gens
quoi.
Qui sont. Non, mais ouais, je veux
voir. Voir aujourd'hui avec Trump aussi.
Tu vois, voir à quel point ils sont allés trop loin. Tu vois.
Non, le seul endroit où j'aimerais aller, je pense, c'est là où ils vont pas dans Retour au futur, parce qu'ils y sont déjà, c'est les années 80 en fait. Ouais. J'aimerais bien retourner dans les années 80 et aller voir une avant-première de Terminator, voir dans quelle ambiance c'était, comment les gens y réagissaient au truc.
Trop bien.
Ouais. Tu vois, ça veut dire que là, personne n'a choisi d'aller dans le futur, en fait. Tout le monde s'en fout.
Non, on s'en bat les couilles.
C'est très pessimiste. Hein.
Non, mais je pense qu'il y a tout un truc avec le climat qui fait que personne n'est très chaud pour aller dans le futur.
J'ai c'est aléatoire, quoi. Tu sais pas sur quoi tu tombes. Là, au moins, tu sais quand t'es passé à peu près à quoi t'en tiens.
C'est vrai qu'il y avait vraiment cette passion avant de. Enfin, là, il faisait vraiment un film sur on va dans le futur, c'est génial, les voitures, elles volent, la science-fiction, machin. Maintenant, plus personne n'a envie d'y aller. Hein.
Il y a peut-être que Elon Musk qui nous donne envie de voir le futur parce que, quand même, le mec, il fait des trucs cool, tu vois. Donc, c'est le seul truc. J'aimerais voir qu'est-ce qu'Elon Musk va nous pondre dans 10, 15 ans. Tu vois.
Ils ont peut-être transformé le futur avec l'espace. Peut-être on a envie d'aller plus dans l'espace, non?
Ouais, c'est vrai.
Non?
Peut-être. Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Bon, tu l'as forcé, il a dit oui.
Ouais, 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 bah voilà.
messieurs, il n'y a que des fans de Retour et Futur autour de cette table.
Oula.
Du coup, je vous ai préparé un quiz Retour et Futur. Donc là, le but.
Je vais perdre. Je connais que le 3.
La difficulté sera grandissante dans le quiz.
Okay.
J'ai envie de savoir qui est le boss de Retour à le futur. Qui est le dieu de Retour à le futur,
c'est dur.
Moi, je me suis rendu compte que du coup, en objet, déjà, j'étais battu parce qu'à l'arrivée, là, t'avais le skate.
Il a 35 caisses.
Le skate, et j'ai fait quoi? Alors, c'était pas l'overboard, c'était pas le pitbull, rien. J'ai fait, je vois pas.
C'est très drôle parce que Franck, donc du coup, je l'ai invité au podcast et il dit, j'ai ramené le skate. Je suis, mais tu sais, c'est audio le podcast quand même parce que les gens vont pas voir le skate.
Oui, mais tu en parles, tu vois.
Mais tu en parles. Et je pourrais le mettre en
photo. Ça met une ambiance, c'est très important.
Et je le mettrai en photo sous le post, le jour où le podcast sortira. Comme ça, ce skate aura une deuxième vie.
Magnifique.
Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz?
Oui.
Oui.
Je vais. D'ailleurs, il y a des personnes qui nous accompagnent sur ce podcast, Valentin et Ninon. Je vais vous demander d'être un peu mes arbitres si je loupe une réponse ou parce que j'ai envie de savoir vraiment qui est le boss. Okay. Ici. C'est très sérieux.
C'est de la rapidité.
Parce qu'on éteint le micro comme ça quand on allume, tu sais que c'est nous qui arrivons.
Ce sera la barre de ce podcast. Première question. Attention. Le fidèle toutou du docteur Emmett Brown se prénomme Einstein. Mais comment se nomme son autre chien en 1935 ?
Copernic.
Vas-y, non mais d'accord.
Mais pas la fin de la question.
Ben non, mais c'est faux.
J'avoue que j'attendais la fin de la question aussi.
Ah, on attendait la fin de Copernic.
On attend ou pas ?
Je vous dis un truc. C'est le premier qui donne la réponse. Mais si la réponse est fausse, il est éliminé. Il ne peut plus répondre sur cette question.
Sur cette question.
Il est éliminé du jeu. Fin d'émission pour lui.
Très dur, le mec. Non, il est éliminé de la question. Et il perd le point et ça laisse le champ libre aux autres.
Okay. Donc, il y a des points, ok.
Voilà. Donc attention de ne pas balancer la réponse trop tôt, sinon vous pouvez vous retrouver éliminé.
Donc là, d'accord, j'ai 1-0-0, c'est ça ?
Franck a 1.
Très bien.
Franck a répondu Copernic, effectivement, le chien s'appelle Copernic. Mais par contre, je peux te donner un point, Guillaume, j'ai une question pour toi. Si tu me dis ce qu'a fait de plus grand dans sa vie Copernic, le vrai Copernic.
Copernic, c'est un navigateur.
J'ai envie de te mettre moins un pour le
c'est
coup.
Un GPS.
C'est un GPS.
Non, Copernic est connu pour avoir été le premier à défendre la théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil.
Ah oui, voilà.
GPS, c'est Magellan, c'est pas Copernic.
Catastrophique.
Et tout le monde le prenait pour un fou à l'époque.
Ça serait coupé, ça serait coupé tout ça. Je veux pas passer pour un teubé.
Franchement, j'ai envie de le laisser quand même.
Oh non.
Si, c'est très drôle.
Ok, 1-0 pour Franck. Attention, je sens que Julien est concentré là.
Je suis à fond là.
Il dit rien, il est concentré. Il
joue sa vie.
D'habitude, c'est moi le gars qui saoule les gens avec Contre le Futur. Là, je suis entouré de gens qui saoulent les gens avec Contre le Futur.
C'est clair.
Okay.
Les saouleurs sont là.
1-0 pour Franck. Dans Retour à le Futur 2, quelle équipe de baseball pourtant nulle se retrouve sacrée championne ?
Les Cubs.
Oh, c'est beau ça là-bas.
Putain, ouais, ça c'est dur.
Oh, les Cubs, tu peux nous dire la ville ou tu l'as pas, non ?
Chicago.
Chicago, bravo.
Et tu sais que
de Chicago.
Contre Miami.
Attends, il s'agit des Cubs.
Ils ont une équipe à Miami ?
Ils savent.
Équipe effectivement nulle dans les années 80, qui n'avait plus gagné de titre mondial depuis 1908 et qui en a gagné un 108 ans après, en 2016, soit un an après 2015, année dans laquelle elle est sacrée championne dans le film. C'est assez incroyable quand même.
Ouais. Bon, en même temps, ils annoncent tellement de choses qu'il y a forcément des choses qui doivent tomber juste.
Non, c'est fou, tu sais. Sauf Jaws 19.
Ça, c'est pas... Les voitures qui volent aussi.
Les voitures qui volent, c'est pareil. Bravo, Guillaume,
merci.
Pour les Cubs.
Ah, c'est vrai, incroyable. Les Cubs. C'est vrai que c'est, en plus, c'est une vraie légende, ça, parce que c'était vraiment l'équipe que tout le monde va voir, genre le stade, le Wrigley's, c'est genre mythique, mais ils ont jamais gagné. Pendant des années, ils étaient
108 ans, tu imagines.
Dans la merde. Ouais,
108 ans.
C'était un truc de ouf pour eux.
Très bien. Troisième question. 1-1. Dans quel quartier habitent Marty et Jennifer en 2015 ?
Hildel.
Oh, Hildel.
Oui,
ah non, mais Hildel. Oh, c'est lui, il est chaud, lui, là-bas. Là.
Ah, c'est beau, c'est beau.
Ah,
c'est
il
beau.
Est chaud. Là, il est très brutal. Très brutal, quand il répond. Ouais.
Alors, on finit pas les.
Parce que je sais que lui, il va arriver juste derrière.
Mais oui, on finit pas les.
Aucun respect pour Aurélien et Julien.
Moi, je les ai avec une
Non, mais je l'ai senti, il y a un truc.
C'était la Roger Camp,
il est au
Camp.
Soit je bute Hitler, soit je.
Si on m'a entendu, je prends un point.
Oh, c'est jamais, pourquoi pas. Et après, il peut toujours y avoir un qui tout double à la fin. Moi, j'adore faire ça.
Ah, oui, mais oui, ça, on sait.
Alors, Hildel, donc, qui est un quartier chic en 85 et qui devient un endroit qu'il craint en 2015.
Oui, exactement.
Ouais.
Dans le film, quel est le prénom du membre des Red Hot Chili Peppers, Flea ?
Comment ?
Quoi ?
Le membre des Red Hot Chili Peppers, Flea, comment il s'appelle dans le
Needles.
Film ?
Ah ouais,
Needles. Oh là là, Needles.
Oui, c'est vrai que c'est le mec.
Needles, tu es chaud, mon Guillaume.
Allez là !
Il est là, mon gars, là-bas.
J'avais oublié. Il est
chaud.
Paul Moyer.
Ah, j'avais plus, là. Putain.
Ah, ça fait 2-2, Needles.
Ah, bien vu.
Incroyable,
Needles.
Bravo.
Needles
qui joue dans le 2 et le 3. On le voit aussi à la fin du 3.
Oui,
c'est vrai.
Il n'est pas dans le premier, il n'est pas dans la bande de Biff.
Non, il n'est pas dedans.
C'est pas lui.
Cinquième question. Dans Retour à le Futur 3, est souvent cité un célèbre auteur français.
C'est
lequel
pour moi, ça.
Oh. Est souvent cité un auteur français dans le 3, lequel ? Ah, ça galère un petit peu.
Ah, non. Alors là, le 3 déjà.
Le 3, c'est celui que j'ai le moins. Ouais.
Alors, petit indice, c'est le docteur Emmett Brown et Clara Clayton qui parlent souvent de cette.
Ah, Jules Verne.
Jules Verne.
Attends, en plus, il a fait son fils comme ça.
Exactement, Jules Verne.
Les deux fils, Jules et Verne, non ?
Les deux, c'est vrai.
Auteur préféré du docteur Emmett Brown et de Clara Clayton, l'institutrice interprétée par Mary Steenburgen, que l'on retrouve d'ailleurs dans la série Curb Your Enthusiasm. Clara Clayton. Elle joue dans Curb. Ça fait donc 3-2 pour Franck. Et 0-0 ici.
Non,
3-2, il vient de mettre le troisième point. Ouais, bah oui, 5 questions.
Bah, je suis pas sûr, mais pourquoi pas.
Bah, si, il y a eu 5 questions pour l'instant. Mais les arbitres ici, la VAR.
Ouais, apparemment.
Ouais, la 3-2, la VAR me dit que c'est 3-2.
Attends, il y a 5 personnes qui disent ça, ça veut dire que c'est vrai. Hein.
Non, mais on compte pas les points.
Oui, on compte pas les points. Ok, en plus, c'est de plus en plus difficile.
Oui.
Sixième question. Quel est le nom du groupe qui joue au bal de fin d'année ?
Marvin and the Starlighters.
Oh là là, ah,
Starlighters.
Marvin Berry, les Gazlighters.
Aurélien et Julien. Un point pour Aurélien et Julien.
Yes, on revient.
C'est Marvin Berry and the Starlighters, qui est un groupe fictif.
Oui.
Dans le film, ce band joue entre autres le célèbre morceau de doo-wop Earth Angel, morceau qui, lui, a réellement existé, composé par le groupe The Penguins. Énorme succès dans les années 50, qui est aujourd'hui classé à la Bibliothèque du Congrès américain pour son importance culturelle, historique et esthétique. Earth Angel.
Attends, il reste combien de questions ?
Il reste trois questions.
Aïe,
il peut se refaire.
Non, il reste quatre questions, pardon. Quatre questions,
on peut gagner,
donc ça fait 3, 2, 1, 1. Les premiers points ont été marqués.
Ouais, c'est bon, on n'est pas ridicule, c'est bon.
C'est un peu, ça s'apparente un peu à un but du tibia à la dernière minute sur un cafouillage, au point.
Ouais.
Mais
on a validé Starlight déjà, alors que c'est un morceau des années 2000, donc
Starlight déjà.
Dans Retour vers le futur 3, comment se prénomment les ancêtres de Marty qui le recueillent dans leur ferme ?
Siméus.
Ah.
Alors, c'est pas totalement.
Simus.
Simus, oui, on a le premier. Simus, t'as 0,5 là.
Simus.
Simus et.
Putain, non, je l'ai pas.
Faut que la réponse soit complète, sinon il n'y a pas le point. Désolé.
Non, je l'ai pas.
Et toi,
je m'en rappelle plus.
Bon, allez, je pense que tu l'auras pas, et comme on est dans un podcast,
Simus.
Faut pas laisser de temps mort comme ça. C'est Simus et Maggie.
Ah, Maggie,
on en parlait tout à l'heure.
Maggie, on revient sur Jean-Marc Thibault.
Vous voulez un petit peu de l'eau, monsieur Eastwood?
Exactement, donc ça fait toujours 3-2 pour Franck, 1-1. Alors, il reste 3.
Personne connaît le 3, hein, ça.
Ouais, non, le 3, c'est.
Le 3, le 3, ça galère.
C'est l'enfant pauvre.
Alors, sur la célèbre photo où l'on voit Marty disparaître.
Ouais.
Attention de ne pas lâcher les réponses avant, sinon c'est l'élimination. Sur la célèbre photo où l'on voit Marty disparaître, il y a à côté de lui sa sœur et son frère. Son frère porte un t-shirt Mickey. De quelle couleur est-il?
Rouge.
Oh là là là, ça allait vite là-bas. Oh, c'est allé très, très vite.
J'étais sur l'année
1950.
Balayette. Ouais, bah, tout le monde était en attente.
Allez,
oh là là, il est chaud là, là-bas, là. Rouge, incroyable, oh, bravo. Rouge. Effectivement, le t-shirt.
J'allais dire gris, je suis vraiment nul.
Ben, moi aussi, j'avais gris en tête. Ouais.
Ça fait 3-3, quel match. Ça fait 3-3.
Oh là là.
Et il reste deux questions.
Je déteste les couilles, ça m'en fout.
Okay. Il reste deux questions.
Ça sert à rien, nous.
Attention. Moi, vous avez un point. Ça fait 3-3-1.
Aïe, aïe.
Neuvième question. Quel est le nom de l'acteur qui a été choisi à la base pour jouer Marty McFly?
Eric Stoltz.
Oh là là,
oh là là,
Julien qui revient de nulle part, incroyable.
Oh
putain, là là, Eric Stoltz.
Ah, c'est oui.
C'est-à-dire qu'il en reste plus qu'un pour
Eric Stoltz. En 85, donc pour Julien, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Eric Stoltz dans Retour à le futur?
Oui, c'est assez incroyable. Bon, j'imagine que je la raconte à des gens qui la connaissent tous. Il a fait, alors le nombre de semaines exact, mais c'est 4 semaines, je crois, un truc comme ça, de tournage. Donc, il a vraiment tourné une grosse moitié de film avant, du coup, de par décision commune de Zemeckis, Spielberg, etc. Ils ont décidé de, enfin, c'est Spielberg qui a proposé de faire toute une combine pour aller proposer aux producteurs de la Fox, du coup, je dis pas de bêtises, de changer de comédien parce que c'était nécessaire parce qu'apparemment ça ne fonctionnait pas le personnage
Fox,
de Marty McFly
de Michael J. Fox
non pardon de la société de distribution c'est pas
Universal
Fox. Universal pardon ouais. Et donc c'est Spielberg qui a mis en place ce truc là avec Zemeckis et ils ont décidé donc d'aller proposer pour 4 millions je crois de dollars de faire changer l'acteur pour avoir Michael J. Fox qu'il voulait avoir en plus à l'origine qui n'était pas disponible ouais. Qui entre temps du coup s'était rendu disponible
mais non il était toujours pas disponible
enfin,
il a joué dans la série Family Ties
et d'ailleurs Eric Stoltz est encore dans certains plans.
Oui, ah ouais, exact. Ouais. Quand il saute dans la voiture, c'est lui.
Et ouais, quand il met une beigne à bif dans le café, c'est Eric Stoltz.
En fait. Mais on peut le voir vraiment en faisant
le. C'est le point d'Eric Stoltz.
Alors, du coup, c'est très fort.
C'est fou.
Alors du coup, ça a
beaucoup
été
d'amorce épaule.
Ça a été une désillusion énorme pour Eric Stoltz parce qu'il est passé à côté d'un rôle culte. En 85, la même année, il a joué dans le film Mask de Peter Bogdanovich, très bon film dans lequel il interprète un jeune homme ayant une malformation causée par une maladie génétique. Ensuite, carrière compliquée, il a joué dans la suite de La Mouche en 89, La Mouche 2. Singles de Cameron Crowe en 92, puis quelques petits rôles dans Pulp Fiction et Jerry Maguire. Pulp Fiction, c'est celui qui aide à mettre la seringue dans le cœur de Uma Thurman.
Big Lebowski avant Big Lebowski.
Ouais, c'est ça, exactement. Et il a plus tourné depuis 2015. Comme quoi, Retour à le futur lui colle à la peau.
Bah, oui, mais.
Oh putain.
Oui, mais. Si moi je te dis que j'ai fait tout ça, tu dis, mais oh putain,
c'est une carrière de
ouf. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Genre, tu fais, bah, j'ai joué un peu dans Pulp Fiction, j'ai fait La Mouche 2.
Mais après, ce que je te dis aussi, c'est, ah, t'as loupé le rôle de Marty McFly.
Ah,
ça,
ouais,
ça fait mal, ça aussi.
Malheureusement, il l'a loupé. Enfin, il y a deux raisons principales. Apparemment, il collait vraiment pas au personnage. Il y avait pas l'aspect comique que vraiment il voulait Bob Gale, les Zemeckis, tout ça. Mais aussi, apparemment, il était compliqué sur le tournage. Dans le fameux bouquin dont on parlait un peu off tout à l'heure, des 30 ans, là, qui revient sur tout le tournage en détail. Je sais plus comment s'appelle la personne qui a fait le bouquin. bouquin, pardon, mais qui était vraiment là sur tout le tournage. Donc c'est un bouquin incroyable, d'ailleurs, je vous conseille de lire, qui est un gros pavé qui est sorti du coup en 2015, du coup, je crois.
Avec plein de petits objets détachables à l'intérieur.
Ouais, c'est super. Et il raconte que avec Stoll, c'était très très compliqué, qu'il était vraiment en mode actor studio.
Ouais.
Il voulait que tout le monde l'appelle Marty sur le tournage. C'était très très compliqué, à tel point qu'il y a une anecdote amusante dans le bouquin où il raconte donc le moment, il raconte vraiment en détail, si ce moment vous intéresse, il le raconte vraiment en détail dans le bouquin, c'est incroyable, comment, qui va parler à quel moment, il raconte les moments où il tourne des plans où en vrai ils font plus que les chants sur Christopher Lloyd et toute l'équipe est pas au courant, donc tout le monde se dit mais pourquoi on fait pas le contre-chant sur Eric Stoltz, c'est quand même étonnant.
Ouh.
Parce qu'ils sont déjà en train d'essayer de gagner du temps en fait. Et donc le moment assez amusant, c'est quand ils vont annoncer à Christopher Lloyd, donc qui joue Doc, qu'ils vont se séparer du coup d'Eric Stoltz. Donc ils disent voilà, Eric Stoltz ça ne sera plus lui quoi. Et il a dit qui? Parce qu'en fait, il avait demandé à tout le monde de l'appeler Marty, et donc il ne connaissait même pas le nom d'Eric Stoltz. Il a fait qui ça? Il a dit bah Marty. Il a fait ah.
c'est
dire si à quel point il était dans un délire acteur studio. Il voulait vraiment être le perso, à tel point qu'il l'était pas vraiment du coup.
Triste histoire pour Eric.
Horrible.
Il reste une question. On a combien là-bas? 3-3, c'est ça?
Ouais.
3-3.
Je suis sur un 2, je peux revenir dans le game.
Ouais, 2. Ah, il peut égaliser, c'est incroyable là. Et s'il égalise, c'est la remontada. La remontada,
non, mais c'est un quitte ou double la dernière ou pas?
Non, c'est pas un quitte ou
double. Non, ok.
Non, c'est pas un quitte ou double parce qu'après il peut égaliser, mais bon, ce serait 3-3. Ce serait un bon
rien. Et moi, je suis nul. J'ai vraiment vu que le 3, les gars, faut le savoir.
Cette question est un peu compliquée. C'est la dernière. Comment se nomme le café dans lequel Marty McFly écrit une lettre au doc dans le 1?
Loose Café.
Oh là là, Loose Café. Oui. Bon, allez, c'est le gagnant. Là.
Oh,
ah ouais, le Loose Café, ouais, là, c'est bon. Sortir ça.
Bon, moi, j'y vais.
Ah, c'est joli.
Bonne journée à tous.
Ah là là, Guillaume, c'est terrible pour Guillaume. Qui a fait un beau match.
En fait, j'étais. Bon, ça va être Café 80.
J'avais ouais, 80 moi aussi, j'ai fait
bah non, moi, je m'attendais à ça, mais il a dit difficile.
Donc, c'est Loose Café sur laquelle il écrit la lettre pour le doc.
Très bien.
Donut Open.
Tu veux une question encore plus dure, peut-être?
Vas-y.
Comment il s'appelle ce café dans le 1985 alternatif?
1985 alternatif?
Là où c'est la guerre parce que Biff a tout pété.
Mais y a
on le voit,
il
est là.
Biff, il a on le voit, ah, d'accord, mais il rentre
il pas
dedans.
Le Biff quelque chose.
Ah, il s'appelle le Warzone.
Le Warzone.
Ah, bravo.
Et si j'avais posé ça comme question, que tu avais répondu Warzone, super.
Ouais, non, mais c'est vraiment c'est un énorme champion. Hein, bravo.
Énorme champion. Bravo, Franck. Mais Guillaume, t'es triste, t'es déçu?
Oui.
Mais t'as une belle chronique à nous préparer.
Ah ouais, quel lancement.
Parce que dans Retour vers le futur, il y a un méchant iconique, à savoir Biff Tannen.
Exactement.
Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à côté de lui, il y a toujours ses sous-fifres. Et finalement, personne ne s'intéresse à eux, sauf Guillaume, qui est allé se renseigner sur toutes ces petites victimes de Marty McFly.
En effet, Biff Tannen n'agit jamais seul, qu'il soit en 85, en 2015, en 1955 ou en 1885. Et d'ailleurs, je profite de ce sujet pour faire une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des gens charismatiques autour de cette table?
Ouais, ça va.
Ok.
Pas mal.
Bah, moi, parfois, quand je suis avec des amis et que je lance une discussion, ils ne m'entendent pas trop, mais ça compte ou pas?
Parce que, en fait, on voit dans tous les films des méchants en chef ayant une bande autour d'eux à qui ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, même sans salaire, juste par autorité naturelle. Et j'envie un peu ça, tu vois, parce que Biff Tannen, il peut crier à tout moment à ses potes « Attrapez-le !» Et ses potes, ils s'exécutent et ils se mettent à courir à fond, etc. Il n'y en a même pas un qui lui dit « Bah, vas-y, toi, pourquoi nous, tu vois ?» Et du coup, je me demandais bah, « C'est qui ces victimes, tu vois ?» En fait, il y a un moment, c'est vraiment des grosses victimes. Et j'envie un peu cette vie de Biff Tannen. Alors, parfois, j'essaye et je dis à mon chien « Attrape la balle !» Et là, il se met à s'en battre les couilles. Donc, bravo, bravo Biff. Alors, on va commencer tout de suite avec l'équipe de Biff Tannen. Dans le 1, l'acolyte le plus connu de Biff n'est autre que Billy Zane,
ben
qui
oui.
joue le rôle de Match dans le 1 et le 2. Billy Zane, qu'on a pu voir évidemment dans Titanic, joue
le
rôle du méchant. Oui, voilà, exactement. Il s'appelle le méchant, j'ai oublié son nom.
Est-ce qu'il y a des méchants dans la vraie vie? Genre, tu sais, ah, je le connais, Mathieu, c'est un méchant.
Ouais, c'est un méchant. À l'école, il y avait des méchants, des mecs étaient méchants.
Ouais, c'est
vrai. Ou alors, quand on dit d'un mec qu'on aime pas trop, on dit non, mais il est pas méchant.
Ouais, c'est vrai. Ce qui veut rien dire.
C'est le dernier stade. Le dernier stade, c'est d'être méchant. Il est pas méchant.
Comme les gens qui disent ouais, mais il est gentil en même temps. Bah, tout le monde est à peu près gentil.
C'est ça. Et donc Billy Zane qui signait là sa première apparition dans un long métrage, et entre le 1 et le 2 il a aussi joué dans Critters,
pas mal.
Et Calme Blanc aux côtés de Nicole Kidman et Sam Neill, film que je n'ai pas vu, mais avant Titanic il a joué dans 2 épisodes de Twin Peaks et 2 épisodes des Contes de la Crypte,
cool.
Entre autres. Petite anecdote assez faible concernant le tournage de Retour vers le futur, le personnage de Match est absent de la scène dans la cantine où Biff harcèle Lorraine avant l'intervention de Marty. La raison est très simple. Selon Bob Gale, il n'était tout simplement pas dispo. Il est aujourd'hui âgé de 54 ans et compte à son actif 98 films et séries tournées. En fait, c'est 87 films et 11 séries. C'est quand même un acteur méga conséquent qui a une carrière de fou. Mais quand on regarde le site d'Allociné, on regarde les commentaires des gens à propos de lui. Par exemple, le commentaire de Eltib07, qui doit avoir une carrière incroyable par rapport à lui, puisqu'il dit à propos de Billy Zane, il a fait que des nanars à part Titanic, ce gars. merci à toi, Eltib07.
Il a fait Critters quand même. Critters, ça sert souvent.
Mais en tout cas, 87 films, bravo. C'est à peu près le seul qui a une carrière suivie. Vous allez voir la suite. On enchaîne avec le personnage de Skinhead, interprété par Jeffrey J. Cohen, qui joue aussi dans le 1 et le 2, et qui change de rôle pour le 3. D'ailleurs, c'est pas le seul, mais pour le 3, justement, quand on parlait de la scène de Needles, où il veut faire la course avec Marty McFly dans son pick-up, ils ont réutilisé les gens de la troupe de Biff, et ils en ont fait des gens de la troupe de Needles, puisqu'il passe dans le gang de Needles en lui rajoutant une perruque. voilà. À la base, il devait jouer le rôle de Biff, mais Zemeckis et Gale ont préféré prendre Thomas Wilson. C'est encore un acte manqué pour lui, parce qu'il aurait pu faire un. Tu vois, c'est quand même un autre rôle, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, on l'entend pas, Skinhead, en vrai, dans la série. À un moment, il fait une vanne sur. Regarde-le, sur sa veste, il croit qu'il va couler, tu sais, quand il est habillé en marin. Ouais. C'est tout ce qu'il fait. Et en fait, ils ont décrété qu'il était pas assez grand pour jouer le rôle de Biff, et ils ont pris Thomas Wilson à la place.
Après, quand tu fais cette scène et que t'as cette réplique, ça te permet quand même de te la péter auprès des meufs en soirée. Vite j'ai fait. Une réplique dans Retour vers le futur quand même, tu vois.
C'est quand même après, il a fait quand même une carrière tranquille par rapport à d'autres ratés que vous allez voir après. En termes de carrière, ensuite, donc pas mal de séries, notamment Alerte à Malibu. Il a joué dans Alerte à Malibu. Il a joué dans V, qui n'est pas non plus une série connue.
Génial.
Et il a joué dans Pacific Blue. Et il joue aussi un des Roddy dans le film.
C'est les mecs en vélo.
Exactement.
Oh putain. J'adorais ça.
Tu connais ça?
Le VTT, mec.
Ah ouais, tu te régales, toi.
Légende.
Toi, t'as vraiment bon goût, hein.
Ouais.
Il a joué aussi un des Roddy dans le film Almost Famous. Je sais que, avec l'accent.
Hein, aïe, aïe, aïe.
Je sais que t'adores ce film. Et donc, voilà, une vie bien tranquille pour notre ami Jeffrey. Le troisième personnage du gang de Biff en 1955 n'est autre que 3D. Parce qu'il porte souvent des lunettes 3D. Du coup, il s'appelle 3D, comme ses lunettes. Il est joué par Kazay Ziemasko, qui a joué dans le 1 et le 2, et qui a aussi joué à la même époque dans Stand By Me, le rôle de Billy Tessio. Et messieurs, je ne résiste pas au fait de vous lire sa bio Wikipédia exhaustive. Il est le frère de l'actrice Nina Ziemasko. Son père est un Polonais américain, un combattant de la résistance polonaise qui a survécu au camp de concentration de Sunshine et d'une mère anglaise. Ziemasko avait un rôle récurrent dans la série New York Police Blues pour le personnage du capitaine Frater Park. Ça s'arrête là, c'est tout. C'est le seul bio, il y a genre deux phrases, c'est tout. Donc voilà pour le gang de Biff, donc il a pas fait une longue carrière lui non plus, mais on va enchaîner avec le fils de Biff, puisqu'en 2015, le jeune Griff a une autre bande tout aussi méchante et toujours sous ses ordres. Vous me dites, les spécialistes, si je dis des bêtises. Hein. Normalement, c'est bon, c'est vérifié.
Il y a Data,
effectivement, bravo. Déjà dans cette bande, on retrouve un jeune acteur qui s'appelle Jason Scott Lee dans le rôle de Whitey, qui est un petit rôle avec une seule vanne puisqu'il dit à Marty McFly que les hoverboards ne fonctionnent pas sur l'eau, c'est tout ce qu'il dit dans le film. Mais dans les films notables, en premier rôle ensuite, on retiendra évidemment le mystère, la vie, l'amour, la légende. J'ai nommé Dragon, le film biographique sur Bruce Lee. On en parlait la dernière fois avec sa fameuse affiche où Bruce Lee, il est devant un soleil, il fait un mawashi sauter. Il a ensuite pas mal travaillé pour Disney notamment. Il joue Mowgli dans le remake de 1994 en premier rôle. Et sache que je savais même pas que ça existait. Je me rappelle pas du tout. Je suis allé regarder, effectivement. Il y avait un live action de Mowgli en 1994 qui a pas dû faire beaucoup de succès, je pense. Il a fait des voix pour Lilo et Stitch et il joue dans le prochain remake de Mulan. Mais un film a attiré mon attention toute particulière dans sa filmographie. Et c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Il a joué dans Time Cop 2.
Ah ouais. Je savais même pas qu'il y avait un 2.
Ça s'appelle, c'est un direct ou DVD. Il s'appelle Time Cop 2, la décision de Berlin. Sorti direct en DVD en 2003. Et le pitch est le suivant. Ryan Chan est l'un des plus brillants agents de la CAT. Durant une mission en Allemagne dans les années 1940, il croise Brandon Miller, qui travaille pour un organisme concurrent créé pour contrebalancer le pouvoir de la CAT, la Société pour l'Authenticité Historique. Ryan découvre que Miller est en fait venu modifier le passé. Il souhaite assassiner Adolf Hitler. Il souhaite assassiner Adolf Hitler pour écourter la Seconde Guerre mondiale. Ryan parvient à l'en empêcher, mais tue accidentellement Sacha, la femme de Miller.
Comment tu tues accidentellement des femmes?
Je sais pas.
C'est n'importe quoi.
Et la question étant, est-ce que ce film vous fait envie?
Bah ouais.
Pour ma part,
Twitter, moi j'aime bien.
Ouais. Non, c'est le genre de film qui se regarde en mode délire avec ses potes.
Oui, voilà. C'est vraiment en mode délire.
Exactement.
Comme tu dis.
Tu vois pas Interstellar en mode délire, tu vois.
Non, c'est vrai. En tout cas, oui, il est parti pour tuer Hitler, c'est fou, on en parlait tout à l'heure. Bon, ouais. On enchaîne avec la seule femme du gang de Griftanen, à savoir Spike. C'est elle qui porte le jeune fils de McFly par les parties dans le Café 80 au début du film. Elle est interprétée par Darlene Vogel, qui a aussi joué la réceptionniste sur les vidéos d'accueil de l'attraction Retour à le futur à Universal Studios, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, est-ce que vous avez déjà testé cette attraction?
Moi, j'ai failli la faire.
Tu étais à l'époque?
Ouais, c'était en 2000 quand j'habitais en Amérique du Nord. Et j'ai eu la malchance. Parce que parfois, avec Guillaume, on se dit, c'est toi le poisseux, non, c'est toi le poissard, etc. Machin et tout.
En général, c'est toi. Mais bon, après,
bah, en général, c'est souvent toi aussi.
Après, voilà.
Mais j'ai eu la malchance d'y aller. Et je crois que c'était un ou deux ans avant, il y avait eu l'attraction qui avait brûlé. Du coup, j'avais pas pu y aller.
Oh, la tristesse.
Ben, voilà.
Donc personne d'autre n'a fait cette attraction et pourtant elle avait l'air culte. Pour sa carrière après ça, Darlene Vogel, elle a fait beaucoup de séries. Elle a joué dans Pacific Blue.
Ah voilà, encore des VTT.
La série des VTT. Elle a fait des apparitions dans La Fête à la Maison ou Castle, mais et beaucoup de publicité, mais plus vraiment de cinéma. Et enfin le troisième acolyte de Griff avec ses circuits sur le visage, j'ai nommé Data. Et pour la petite histoire, tous ces gens, en fait, ils ont des surnoms, genre Data, genre Spike, etc. Et ils sont notés au générique, mais on les appelle jamais comme ça dans le film.
Ouais, c'est drôle.
Ils n'ont pas vraiment de nom, en fait, tu vois, dans le film. Donc, il est joué par Richard Dean Logan. Richard, tu dis?
En fait, ses amis l'appellent Ricky Dean.
Très bien.
On le connaît, en fait.
C'est pas... Ah, tu le connais?
Par le bien d'un ami, ouais.
Incroyable.
L'info qui sert à rien.
Il connaît. Alors, bon, tu connais Data, donc il s'appelle Richard Dean Logan, qui se fait appeler Ricky Dean, apparemment. Et qui lui aussi change de gang et il devient acolyte de Needles dans le 3 à l'arrière du pick-up. Et en termes de ciné, il a aussi joué dans le chapitre 6 de Freddy, L'ultime cauchemar, où il prend le rôle de Carlos et quelques apparitions dans des séries comme.
Pacific Blue,
ouais, bien joué. Il a aussi joué dans Pacific Blue.
La grande recyclerie.
Tu sais faire du vélo, tu sais faire du VTT. Allez, viens.
T'habites à Santa Monica, ça.
Allez, ils ont récupéré tout le monde. Et donc, voilà pour le 2. Bien sûr, dans le 3, Buford Tannen a aussi son gang, mais en général, lorsque les noms cliquables sur les sites des fans sont rouges, ça sent vraiment le roussi côté info sur eux et leur carrière, donc je vais m'arrêter ici. Mais j'aimerais quand même rendre hommage à Mike Watson, Christopher Wynne, qui a tout de même joué dans Speed 2, et Sean Gregory Sullivan, dont tout le monde se fout, mais qui ont joué quand même dans Retour à le futur 3.
Ah,
quand
ouais.
même, pas rien. Et pas exclu que vous les retrouviez en convention, ceci dit, parce qu'en général, bon, on recycle un peu.
Ou dans le reboot de Pacific Blue.
Ouais, c'est ça.
Il y a rarement Michael J. Fox dans les conventions. Où,
ouais, c'est ce qu'on se disait justement, à chaque fois qu'il y a une convention. Bon, là, il y en a une qui va se passer bientôt, en juin, à Disney. Il me semble. Je sais pas si t'en
Tout
fais partie.
Tout à fait. Ben, c'est mon ami qui est à l'autre DeLorean et qui connaît Ricky Dean.
C'est ça, Val DeLorean.
Alors, Val, c'est son pote qui l'a aidé à construire la voiture, mais okay. Le proprio, c'est Jérôme, qui est pote avec tous les gens du cast, là.
Et donc, ils organisent une convention.
Tout à fait. Ils organisent une convention dans un des hôtels de Disney où il y aura 5 acteurs, si je dis pas de bêtises. Bob Gale sera là. Peut-être ouais. Alan Silvestri aussi, ça va être un truc sympa pour les fans.
Et donc pour ceux que je viens de citer, il y aura Darlene Vogel, si ça vous intéresse,
okay.
qui joue Spike.
Dans Eric Dean Logan.
De... Peut-être un fan de Darlene Vogel.
Ah, peut-être, on ne sait pas.
Elle a très bien vieilli. Hein.
Ah ouais
très très bien vieilli.
Très bien. Ouais. Je vais vous poser une question comme ça, d'instinct, et je veux que la réponse elle arrive direct, et après on va un peu décortiquer. Le meilleur des trois pour vous.
Le
meilleur des trois.
Le 1. Le 3.
Le 1. Alors attendez, Guillaume a dit le 2.
Le 2.
Le 2.
Julien a dit le 1.
Oui.
Aurélien a dit le 3.
Non.
Non, t'as dit le 3. Et Franck,
t'as dit le 3
Le 2.
Le 2.
En fait, Franck et moi, on est vraiment la même personne.
Ouais, ouais mais je vois ça. Non, mais en vrai, est-ce qu'on pourrait revenir justement, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur le 3 un petit peu, parce que okay. comme disait Julien tout à l'heure, le 3, c'est le film qu'on regarde pas. Enfin, on regarde vraiment les deux. Et le 3, il est assez détaché quand même des deux premiers. Mais alors, c'est quand même un film.
Pourtant, il a été fait dans la foulée du 2.
Exactement.
Fou,
pour moi, c'est
tourné en même temps.
Pour moi, c'est le
mais
film.
Moi, pour revenir rapidement sur le 3, je l'ai revu récemment et je trouve que c'est un film qui est très fun. Il a une ambiance comme ça, très Disney. Même, je réécoutais la soundtrack du 3e. Quand on écoute la bande-son du 3, bah, c'est des chansons qui pourraient se retrouver dans l'attraction du train de la mine. D'ailleurs, je vais mettre un extrait. Et il y a un côté fun dans le 3 où j'ai l'impression que dans les deux premiers, ils ont voulu créer une sorte de cohérence. pour que les films se suivent. Et le 3, c'était un mode, bon allez, on se fait plaisir, on va un peu plus loin, on va dans le Far West.
Lâcher prise.
Un petit délire, quoi.
Surtout écrire une histoire à Doc Brown. Parce que Doc Brown, en vrai, c'est un personnage, il fait dire, nom de Dieu, il fait des trucs, il tire en l'air. Hein. Il y a un petit peu la rencontre avec son moi du futur, un petit peu. Mais sinon, vraiment, c'est dans le 3 qu'on apprend un peu à connaître. Puis il a des émotions, il a... une relation, je sais pas, c'est,
moi, je pense que
c'est le film pour les vieux, quoi.
Pour moi, c'est ça qui a tué le film, mais bon.
Ah ouais,
ouais, ah ouais,
moi,
c'est t'es dur. L'amour, quoi. Avec...
ouais, réellement, tout le truc avec Clara, je trouve ça chouette. Ah ouais. En fait.
Non, mais justement, je trouve ça chouette. Comme dit Aurélien, ça donne un peu d'histoire. Souvent, Marty qui est au centre de tout, ouais, et sa famille. Et là, ça donne un peu une histoire à Christopher Lloyd qui bah, voilà, était un peu le savant fou dans le 1 et le 2.
Mais je pense qu'en fait, le 3, il pâtit de la comparaison au 1 et au 2. Bah, foncièrement, tout seul, c'est un bon film. C'est un bon film. Si c'était le premier de la série, on serait là genre, mais attends, c'est incroyable ce film, en vrai, tu vois. Il est dans le Far West, etc. Et aussi, dans le 3, pour les fins mélomanes, il y a ZZ Top.
Exactement.
Ouais, ouais, les gars.
La grande guitare.
Julien, toi, le 3, tu l'apprécies?
Oui, même si c'est vrai que je regarde beaucoup 1-2, bah, comme là pour l'émission, tu vois. Bon, j'ai pas eu le temps non plus, mais j'ai fait 1-2. Et je m'arrête souvent au 2 parce qu'en fait, c'est vraiment un diptyque, le 1-2, étonnamment. Alors que, comme on disait, le 2 était tourné dans la foulée du 3. En termes d'intrigue, c'est tout le génie du 2 aussi, c'est qu'il est relié vraiment en détail avec le premier.
Bah, il refasse la même chose.
C'est ça. Et le 3, en plus, pour moi, le 2 se conclut un peu de la même manière que le 1 sur une fin ouverte qui pourrait être une fin aussi en soi de saga, tu vois. On pourrait s'arrêter là-dessus, c'est cocasse, c'est une bonne vanne. Effectivement, ils ont quand même mis la petite bande-annonce à la fin qui fait que non, il y a vraiment un film. Non, il est vraiment dans le Far West, ils y vont vraiment. Mais oui, il est forcément un peu en décalage par rapport aux deux premiers. Donc je pense que c'est facile, sans même les comparer si on les préfère ou pas, il est forcément en décalage par rapport aux deux premiers. Quoi.
Il est moi, plus lent. Il y a de l'histoire quand même.
Il y a non, plus... Franck.
Pardon. Je disais, je trouve qu'il est plus lent le 3. Il est jusqu'à toute la scène finale avec le train. Il n'y a pas le rythme effréné des deux premiers où ils sont tout le temps dans la merde, où il se passe tout le temps des trucs, où il faut courir à droite à gauche pour essayer de sauver ce qui se passe. Là, le 3, tout le début, ils se disent bon, comment on va faire pour rentrer? Et il prend beaucoup plus le temps. C'est sûrement celui que je préfère le moins. Par contre, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que comme je l'avais beaucoup, beaucoup moins regardé que les autres, c'est celui que je peux encore regarder avec plaisir parce que je découvre encore des trucs. Alors que les deux autres, je les ai fumés.
Mais justement, t'as raison de ça parce que tout comme Julien, moi, quand je les regarde, c'est le 1 et le 2. Et là, récemment, justement, pour l'émission, je voulais la revoir. Je me suis dit, tiens, je vais juste voir le 3, parce que le 3, c'est celui que j'ai le moins vu, finalement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, parce que c'est comme si c'était une petite nouveauté dans la trilogie Retour à le futur de revoir le 3, parce que, comme tu disais tout à l'heure, Julien, tu redécouvres toujours des trucs. Et vraiment, pour résumer la trilogie, pour moi, je dirais que le 1, c'est le meilleur. Le 2, c'est le plus fun. Et le 3, c'est le plus amusant, en mode lâcher prise, etc.
Mais est-ce qu'il y a des trilogies où le 3, c'est le meilleur?
Terminator?
Non,
mais Alien 3 est un très bon film.
Alien 3. Die Hard 3.
Les Visiteurs.
Die Hard 3 est un super film.
Die Hard 3.
Indiana Jones 3.
Oui, bravo.
Indiana Jones, c'est le meilleur.
Pourquoi j'y pensais pas.
Il y a pas mal de
films. En fait, c'est ça le bon exemple.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Est venu le moment des anecdotes sur le film.
Oui!
Il y a déjà eu un vidéo store autour du futur, mais c'était juste centré sur le 1. Du coup, je vais vous régaler d'infos sur le 2 et sur le 3. Petites infos comme ça sur le film. Alors déjà, figurez-vous qu'à la base, il ne devait pas y avoir de 2 ou de 3. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, je ne sais plus qui.
Ouais, on
Franck. Parlé, ouais. Lorsque la voiture s'envole à la fin du 1, c'était juste une blague en fait. Mais sous l'insistance des fans, Bob Gale, le scénariste, et Robert Zemeckis se sont lancés dans la création d'un deuxième et d'un troisième et ont eu toutes les difficultés du monde à les écrire. Voilà, ça on en parlait tout à l'heure. Dans la première mouture du scénario, l'action du 2 devait se dérouler en 1967 sous fond de guerre du Vietnam. C'est un délire quand même.
Oh.
Stylé.
Ouais, non, ça chauffe des gens, ce Retour à le futur là ou pas?
Non, je préfère.
Apocalypse Now.
Non, c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça.
Un peu dark.
Ouais, je les vois bien transformer un hélico en voiture, un truc à voyager dans le temps.
T'aurais été obligé de l'acheter, c'est rouleau pour toi. Ah,
merde. Il y a eu les années 30 d'éventualiser pour un 4 aussi. Je sais pas si t'as ça dans ton.
Non, j'ai pas du tout ça.
On revient sur Hitler.
Ça a été recyclé dans le jeu vidéo, qui est pas si mal. Je sais pas si vous avez joué au jeu vidéo.
Je vois ce que c'est.
Qui a été en plus récupéré. Ils ont récupéré l'embryon de Retour à le futur 4, les idées qu'il y avait eu pour Retour à le futur 4 qui n'a jamais eu lieu. Et donc il y a les fameuses années 30, etc. Alors bon, c'est vraiment du fan service le jeu et c'est un point and click qui prend son temps, quoi. Mais c'est pas si mal comme jeu quand on est fan et qu'on est un peu en manque. Je vous conseille de jouer au jeu, c'est sympa.
C'est quoi, c'est sur PC ou
en manque de quoi?
Il est sur PS4, PC, un peu partout, je crois.
Ok, cool.
En manque de Retour à le futur.
Ah,
bah oui, pas de meuf, je pense.
Sinon, t'es déçu.
Ouais. Retour vers le futur 2 marque la première apparition au cinéma de l'acteur Elijah Wood.
Oui.
À quel point c'est classe de dire le premier film dans lequel j'ai joué, c'est Retour à le futur. C'est quand même cool, non?
Ouais, exactement.
C'est vrai.
C'est fou.
Il était si peu important à l'époque qu'il y a un faux raccord. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça.
Non.
En fait, avant qu'il intervienne, quand il discute, il y a un plan où il disparaît. Il y a un plan où il n'est pas là. Ouais, il y a un faux raccord.
Ah, je savais pas ça.
Ils sont vraiment figurants au début de la scène et après, non, ils sont.
Il avait déjà le truc qui le rend invisible du Seigneur des Anneaux.
Ouais, non, c'est ça.
En fait, au début de la scène, les deux petits, ils sont dans le fond, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et après, ils disparaissent.
Il y a un plan. Non, il y a un des plans où ils sont pas là. Il y a un faux raccord.
Oui, mais c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, après, ils l'ont. Je pense qu'ils se sont rendu compte parce qu'après, ils disent ouais, ils étaient derrière la console et ils l'ont réparé. Genre ils ont disparu pour réparer.
Ah, je me suis trompé. Ah, t'as peut-être raison. Ah, ça me donne envie de revoir.
Parce qu'en fait, quand je l'ai revu hier, je me suis dit bah attends, faux raccord. Et après, en fait, ils sortent du truc.
Okay,
ils font, bah, c'est bon, maintenant on l'a réparé.
Oui, c'est vrai. Fake news.
Ok, fake news.
Voilà, je me permets. Bon.
T'as raison.
J'ai perdu le quiz, mais après.
Ouais, tu sens qu'il est encore en mode.
Ouais, tu me séduis un petit peu. J'ai envie de te donner un point.
Je savais pas qu'on pouvait soulever.
Bah tu vois, avec tout ce que tu m'as dit là sur le jeu PC, j'ai envie de te donner des points.
Comment s'appelait le jeu vidéo?
Ouais, écoute.
Ah, comment s'appelait le jeu vidéo?
The Game.
Non, c'est le jeu de western avec le flingue là.
Le jeu vidéo de.
Ouais.
Comment il s'appelle?
William Gun? Non, William comment? Non, je sais pas.
Wild Gunman.
Jeu qui a vraiment existé.
J'ai récupéré mon point.
Ouais, mais t'as déjà gagné par contre, du coup.
Mais comme tu viens de lui en donner un, t'es. En fait, on continue à se donner des points.
Quelle bagarre!
Alors, Robert Zemeckis a avoué dans une interview qu'il a longtemps combattu l'idée de faire un film qui se déroulerait dans le futur. L'idée ne l'enchantait pas car, dit-il, 9 films sur 10 se déroulant dans le futur prédisent très mal le futur. Donc lui à la base il voulait pas le faire, mais finalement quand on voit Retour à le futur 2, bah c'était plutôt cool ce futur qu'il a imaginé dans le film avec Bob.
C'est bien, mais c'était très mal prédit.
Effectivement.
Il a raison.
Non, mais il y avait des petits trucs quand même qui
genre le
bien
skate
prédit.
Qui vole. Non.
Bah si, ça existe, j'en ai
des lunettes.
Il y a eu un documentaire là-dessus sur tout ce qu'ils ont eu de bon en fait, et il y avait 70% des trucs qui étaient bons.
Tu vois, c'est pour ça qu'il a gagné le quiz lui.
Mais, d'ailleurs tant que j'ai l'antenne, ils ont dit que c'était justement, ils voulaient pas montrer un futur terne et noir comme tous les autres films, mais c'est un des rares films qui montre un futur un peu joyeux quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il est très coloré ce futur. Retour à le futur 2 a été tourné 4 ans après le premier, sauf que entre temps Michael J. Fox ne savait plus faire de skate. Il avait perdu tout ce qu'il avait appris dans le premier et dû réapprendre à monter sur un skate. Sauf que plus tard Michael J. Fox s'est rendu compte que cette difficulté à remonter sur un skate était due aux premiers symptômes de la maladie de Parkinson. C'est une info un peu triste.
T'as cassé l'ambiance là.
Bah ouais, j'ai un peu cassé. J'aurais dû la mettre à la fin. Je m'en rends compte maintenant.
Non, mais ça marche si tu parles de la fondation Michael J. Fox et que vous pouvez envoyer vos dons.
Et bah c'est ce que vient de dire Julien. Voilà, j'avais prévu qu'il allait dire ça.
Et on gagne pas de points quand on est gentil par contre.
Ouais, bah écoute, t'as gagné. Voilà, je t'ai voté à fond là-dessus. T'as gagné grâce à ton histoire de fondation. Vous vous souvenez de la scène dans le 2 où le Marty du futur mange avec sa famille? La scène de la pizza miniature, etc. Ouais. etc.
Oui.
Hydratation 4.
Eh bien, figurez-vous que durant le tournage de cette scène, il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles ressenti par toute l'équipe technique qui a craint que le décor soit défoncé. Mais par miracle, tout était resté indemne. Donc maintenant, quand vous regarderez cette scène, vous saurez que durant le tournage, bah, il y a eu un mini tremblement de terre à Los Angeles et qu'ils l'ont ressenti.
C'est pas très radiophonique, mais à chaque fois que t'as une info que Franck connaît pas, il se redresse sur sa chaise, il est là.
Mais quoi? Un tremblement de terre, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce truc.
Oui, alors qu'il est pas bien
là. Là, il va découvrir un truc, il est comme ça, il est pas là.
Quelles sont vos sources?
Bah écoute, je vois pas trop, mais tu me dis quand il est. Non, je fixe
Il fait des mouvements. Quoi?
Mais écoute, celle-là va peut-être te régaler. Michael J. Fox a failli mourir durant le tournage du 3. Eh ben, dans le film, Molos Tannen le pend à une corde, pardon. Sauf que cette corde l'a vraiment étranglé et Fox s'est retrouvé inconscient au sol. C'est-à-dire que l'équipe technique était un peu apeurée comme ça et du coup, il n'y avait rien de grave. Mais il était complètement étranglé par la corde. Je vois Guillaume qui fait une moue dubitative. tout ce qu'il dit là, tout ce que je dis là est vrai.
Bravo.
Ouais.
C'est incroyable comme histoire.
Bah, c'est vrai, il a failli. Et d'ailleurs, c'est Michael J. Fox. Si vous vous renseignez sur Google, c'est Michael J. Fox lui-même qui raconte cette histoire.
Mauvais délire s'il était mort en fait.
Très mauvais délire.
Là, Retour à le futur, on serait là-bas, on n'en parle plus.
Très, très. Ouais. Ça, on aurait fait un podcast.
Non.
Autre info, figurez-vous que c'est Michael J. Fox lui-même qui a convaincu les ZZ Top de jouer dans le 3. Il n'a rien lâché en leur envoyant plusieurs messages durant des semaines. À la base, ils n'étaient pas très chauds, ils hésitaient pour jouer dedans. Et c'est Michael J. Fox qui est revenu à la charge en disant bon, allez, ça va être cool, bonne ambiance, etc. Et dans le film, ils jouent les types qui interprètent la fameuse musique de bal. Extrait, vous vous souvenez tous de cette musique.
Surtout, ça veut dire que t'es vraiment un niveau incroyable de popularité quand tu dis bon, non, j'ai la flemme. Bah, Retour à le futur, non.
Eh bien, écoute, tu me fais un parfait lancement pour l'anecdote qui vient.
Ah bah.
Alors, en intro de ce podcast, je vous disais que le président Reagan avait utilisé une réplique de Retour à le futur dans un discours. Et finalement, Reagan et ce film, c'est une petite histoire d'amour. Souvenez-vous, dans le premier, Marty McFly annonce au doc du passé que le président en 1985 est Ronald Reagan. Le doc n'en croit rien puisqu'en 1955, Ronald Reagan est un acteur. Ce qui lui fait dire, et le secrétaire de la Défense, c'est John Wayne. On a donc là deux histoires avec Reagan. Eh bien, je vais en ajouter une troisième puisque dans le 3, il a failli jouer le maire de Hill Valley, rôle proposé par les producteurs du film, dont Spielberg, mais Reagan a refusé poliment, ne souhaitant pas reprendre du service à Hollywood après sa présidence. Ça aurait été assez cool quand même d'avoir Ronald Reagan en maire dans le 3. Ça aurait été assez marrant.
Bravo.
Dans le 3, Marty McFly se fait appeler Clint Eastwood. Sauf que, vous pensez bien, aux États-Unis, ce genre de truc, ça ne se fait pas sans permission. On se souvient de l'acteur Crispin Glover, le père de Marty dans le 1, George McFly, qui a poursuivi la production pour avoir utilisé des références liées à sa personne dans le 2. Et bien, dans le 3, Zemeckis a demandé lui-même à Clint Eastwood s'il était possible d'utiliser son nom. Il a donc accepté gracieusement et a même ajouté qu'il était amusé par l'hommage. On se souvient tous que Molos Tannen demande à Marty McFly comment il s'appelle, il répond Clint Eastwood.
Eastwood
ouais, c'est assez drôle.
Il y a même un extrait dans Retour à Futur 2. On voit un extrait
exactement.
De je sais plus quel film avec Eastwood où il y a toute l'histoire du gilet pare-balles.
Ouais, ils sont jacuzzi avec Biff.
Exact. Toujours dans le 3, Marty utilise une assiette pour empêcher Tannen d'abattre le doc. Sur cette assiette, il a écrit Frisbee. Vous vous en souvenez de ça? Eh bien, figurez-vous que c'est un clin d'œil à l'histoire, car en 1871, la Frisbee Pie Company, qui produisait donc des tartes, fut créée dans le Connecticut. Et dans les campus, en particulier à Yale, les récipients étaient donc utilisés par les élèves pour s'amuser. Ils se les lançaient entre eux. C'est comme ça qu'est né le Frisbee. Donc, c'est assez drôle, finalement. Ce que fait Marty McFly, c'est une vraie référence à l'histoire. Et pour finir, vous vous souvenez de cette photo jaunie dans le 3, représentant le Doc et Marty devant l'horloge de l'hôtel de ville.
Ouais.
On se souvient tous de cette photo. Eh bien, vous serez amusé d'apprendre que l'heure indiquée est 8h08, une référence à 88 miles à l'heure.
Voilà.
Tout à l'heure, on parlait des 88 miles. Ah, et bien, c'est 8h08. C'était Attends. Donc la dernière info de ce podcast.
À quel moment de quoi, où est-ce que ça a indiqué 8h08?
Bah, sur la photo où on voit le Doc et Marty dans le 3 qui se prennent en photo devant la première horloge, la construction de l'horloge.
Dans ma mémoire, c'était 10h04 comme à l'après quand elle s'arrête avec la foudre. Mais je dois me tromper.
Aïe,
pour moi, c'était le truc de e-book la boucle justement et l'horloge s'est arrêtée à la même horaire qu'elle a commencé.
Dans l'info que j'ai lu, c'était 8h08. On vérifiera.
Il faut regarder la photo.
Est-ce que je peux rajouter une info très nulle? Une info très faible concernant un Retour vers le futur. Je m'en suis rendu compte hier, je vous la donner comme ça. Quand vous regardez la version française, le Doc dit nom de Zeus, dans la version anglaise il dit Great Scott, et quand vous regardez la version anglaise sous-titrée en français, il dit pas nom de Zeus, il dit Sacre Bleu. C'est très nul.
C'est la version québécoise.
Écoute, c'était la dernière info de ce podcast, Guillaume, merci. Podcast qui se termine déjà malheureusement. Toujours très triste d'arriver à la fin de ce podcast. Julien, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Oui, bien sûr. Je suis tous les lundis soirs sur Twitch en direct avec mon ami Valentin Vincent. On fait une émission qui s'appelle Askip et on s'amuse bien. On reçoit plein d'invités. On fait des jeux, un peu de jeux vidéo, mais aussi des jeux d'humour sur un plateau. Et sinon, j'écris tout simplement. J'écris pas mal pour de la série, du long métrage. Donc voilà, j'espère des choses qui vont se faire dans l'avenir. Je suis dans la période du métier de scénariste qui se fait refuser des projets, qui s'en fait accepter, qui s'en fait refuser surtout. non, mais voilà. Donc, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais ravi d'être là avec vous. J'ai envie que ça dure encore 4 heures. Là,
bah ouais, on aimerait bien en parler plus. Franck, ton actu en ce moment?
Écoutez, vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube Movie Car Central. Et sinon, on fait tous les mois une journée circuit où les gens peuvent rouler avec les voitures de cinéma sur le circuit. Voilà.
Très cool. Alors, aujourd'hui, c'est à Aurélien de choisir le prochain film.
Eh oui, et j'ai cliqué sur « À la maison », car j'aime bien rester chez moi en ce moment avec le coronavirus. Ensuite, j'ai cliqué sur « Bidonner », heureux, parce que vraiment, je suis content et j'aime rire.
T'as mis comme ça, toi.
Europe, pour changer un petit peu. Et années 70, parce que pour moi, ça paraît être la meilleure décennie du cinéma. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord. En indice, je propose « Vert »,
ouais.
« Danse » et « Paf ».
Paf.
Ah, paf.
Ok, paf. Très bien, donc peut-être que vous avez deviné, vous qui écoutez ce podcast, ce sera le film qui sera à l'honneur dans le prochain épisode. C'est donc la fin de cet épisode spécial Retour vers le futur. Merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast, c'est un plaisir. Et je tiens également à remercier Valentin et Ninon qui nous ont accompagnés sur ce podcast. Guillaume, Aurélien et vous tous qui nous écoutez, on se retrouve dans 2 semaines. Bye.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bonjour, je suis Pauline Mallet. Retrouvez-moi dans We Love Preview, le podcast des événements We Love Cinéma, avec des interviews exclusives, dont celle de la co-réalisatrice Anastasia Mikova du film Woman. Un podcast de We Love Cinéma à retrouver sur welovecinema.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts.